I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va parler PlayStation VR 2 et Leonardo. C'est quoi Leonardo? Vous allez voir ça tout de suite. Le Xbox Direct. Il y a aussi les mésaventures de Ubisoft. Et surtout, surtout, Street Fighter 6, devant lequel je fonds et je me répands en amour infini. Allez, c'est parti, c'est le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Nous sommes en janvier 2023. C'est l'épisode numéro 276. Je suis Patrick Béja. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que vos vacances ont été merveilleuses. Enfin, vos vacances, en tout cas, vos fêtes ont été incroyables. Peut-être un petit peu moins covidées que les miennes. J'ai passé une bonne partie au lit. Mais là, tout va bien. Je suis remis quasiment. J'irais remis à, allez, 92%. C'est suffisant pour faire un rendez-vous jeu. Surtout, quand je suis assisté par des co-animateurs aussi talentueux, drôles, intéressants, sympathiques que, d'une part, Escarina. Comment vas-tu, Esca?
Écoute, très bien. Meilleur vœu, Patrick.
Aussi,
mais oui, on ne s'est pas revu, bien évidemment. Meilleur vœu à notre invité, à tous les auditeurs. Et ça va très bien, je te remercie.
Je suis très heureux de t'avoir en notre compagnie. J'ai un petit message pour toi dans une seconde.
J'ai très peur. Si c'est ce que je pense, je prépare le bouclier.
Fais pas encore tes valises. Mais avant ça, il faut quand même que je dise bonjour à Mallory Delacourt, Malodélique, qui nous rejoint, comme tu le disais sur Twitter. On n'a pas attendu 3 ans pour se revoir. Tu es là avec nous et quel plaisir de te retrouver. Comment ça va?
Ça va très bien. Meilleurs vœux aussi. Et puis ouais, la phase de maladie est passée, donc ça y est, on est reparti.
Très bien, bravo. J'ai cru comprendre, parce que tu me l'as dit, que tu faisais un retour Benjamin Buttonien et que tu travaillais pas mal pour la presse papier maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais,
on est dans les années 90, je comprends pas.
Mais c'est ça, je retourne là où plus personne n'allait. Non, en fait, il y a pas mal de changements niveau boulot. Et du coup, j'ai été mis, grâce à ce cher JK que tu connais bien, en contact avec les magazines de Nickel Media, donc Total Jeux Vidéo, Les Légendes du Jeu Vidéo, Top Jeux Vidéo, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Retro Gamer aussi. Et puis j'ai commencé à faire des articles pour la presse papier, un truc que je croyais impossible parce que franchement j'y croyais pas du tout, avec le nombre de magazines qui ont disparu et puis le nombre de magazines qui ont disparu. Et finalement ils survivent, et c'est plutôt les sites qui tentent de survivre en ce moment. Donc il y a une sorte de retournement de situation incroyable. Et voilà, je varie un peu les plaisirs en continuant la presse web et en attaquant le papier, qui est un vieux rêve, parce que j'ai grandi avec ces magazines-là en tant que vieux. Et j'ai toujours dit que j'aimerais bien signer un article dans un magazine. Donc quand ça sortira, le prochain, j'en achèterai 12 et je l'enverrai à toute la famille.
t'en verras ta maman. Mais du coup, c'est quel magazine dans lesquels on va pouvoir te lire? Tu peux dire encore ou pas encore?
Oui, c'est Total Jeux Vidéo. Les Légendes du Jeu Vidéo, il n'y a pour l'instant qu'un seul numéro, parce que c'est un magazine qui vient d'être lancé, qui est trimestriel. Retro Gamer et Top Jeux Vidéo, qui est le pendant jeunesse de Total Jeux Vidéo. Donc c'est les anciens vidéo gamers qui a été renommé il y a une dizaine d'années, je crois.
D'accord, super.
Donc voilà.
Bah,
donc
c'est chouette, on attendra ça. On attendra ça avec impatience. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas pour débuter cette année 2023. Je n'oublie pas évidemment de remercier également les patriotes qui soutiennent l'émission financièrement et ceux qui ont rejoint le rendez-vous jeu. Pendant les vacances, on a GDG, Jérôme M, Florent Samut, Rikian et bien sûr le producteur de cet épisode, Lancelot Davizard. Merci à vous tous d'être présents, d'être au rendez-vous pour soutenir l'émission. patreon.com/rdvjeux, vous le savez, si vous souhaitez faire partie de cette formidable famille à laquelle j'envoie des bisous et des hugs, comme ça, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, les bisous et les hugs spécifiquement pour vous. Donc merci à vous, GDG, Jérôme M, Florent Samut, Eric Yann et Lancelot, qu'on connaît bien ici. Bon alors, on a des news qu'on va traiter aujourd'hui, mais avant ça, il y a une chose importante. T'es prête, Maïté ?
J'ai sorti la masse et le bouclier, là. Vas-y.
Non, mais on va devoir dire au revoir à Cordoba. On a beaucoup discuté dans l'équipe de production, et du coup, maintenant, on va t'appeler par ton vrai nom choisi, et on ne va pas... aléatoirement rajouter des noms de villes ibériques, tu vois. Donc, on a supprimé de nos listes, tu sais, où les invités sont nommés, on a supprimé le Cordoba. Donc, maintenant, tu n'es plus Escarina Cordoba, tu es juste Escarina.
Écoute, je suis profondément touché par cette reconnaissance qui arrive après plusieurs années de collaboration. Donc... Alors moi je pensais que t'allais m'annoncer que vous aviez... Alors déjà je pensais que t'allais me troller sur autre chose, mais je pense qu'on y viendra juste après.
D'accord.
Et je pensais que t'allais m'annoncer que tu avais retrouvé la source de cette usurpation d'identité.
Mais non, pas du tout, toujours pas. Et je crois que j'ai en fait fait une prioritisation des choses importantes que j'ai à faire, et j'ai décidé que retrouver la source n'était pas très important, donc on va oublier, tu vois. C'est juste, ça va passer dans les légendes du rendez-vous jeu. Cordoba aura un temps fait partie de notre équipe, mais là, c'est... Peut-être que c'est une sorte d'alter ego d'Escarina qui va ressortir au bout d'un moment, tu sais, pour les jeux qu'elle aime pas. Ou pour,
oui,
Cordoba va arriver avec une voix de démon métal et nous dire des trucs, je sais pas, mais on verra.
Tu fais appel au droit à l'oubli, je suis obligé d'accepter.
<C'est bien.
rire> Donc voilà.
Bon, donc ça c'était... Oui, pardon.
Ah mais non, rien à ajouter. Est-ce que tu veux rajouter un petit jingle de funéraire de...
Non, écoute, on va juste s'arrêter là. J'ai pas mes jingles, c'est pour ça. J'aurais pu, mais je ne les ai pas. Mais par contre, je voulais aussi, avant qu'on se lance dans les news, répéter l'astuce Xbox. Qui fonctionne, effectivement, on en parlait, je sais plus, c'était peut-être pendant l'épisode GOTY. L'astuce pour s'abonner au Game Pass fonctionne bien et je l'ai utilisée et je crois que c'est Kassim qui nous confirmait que ça fonctionnait toujours. Et donc, je vais la répéter dans cette émission parce que quand j'en ai parlé sur Twitter, il y a plein de gens qui m'ont dit « Hein, quoi, ça fonctionne ok, je savais pas, merci beaucoup de l'astuce, etc. » Donc, qu'est-ce que c'est que cette astuce pour s'abonner au Game Pass ? Quand on n'est pas abonné au Game Pass... et qu'on s'abonne, qu'on ait été abonné par le passé ou pas, eh bien, le système Microsoft convertit votre temps de Xbox Live Gold en temps Game Pass, en 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous aviez un mois de Xbox Live Gold, ça vous donne un mois de Game Pass quand vous vous abonnez au Game Pass. Or, le Live Gold coûte beaucoup moins cher que le Game Pass, en particulier que le Game Pass Ultimate. Donc, si votre abonnement Game Pass... se termine, ne le renouvelez pas. Au moment où il se termine, vous achetez 1 an, 2 ans, 3 ans maximum de Live Gold, et puis vous vous abonnez au Game Pass, et du coup ça va convertir combien ça va coûter 1 an de Live Gold, 60€, ça va vous convertir ça en 1 an de Game Pass. Le truc qui ne marche pas, c'est l'offre découverte du Game Pass à 1€ pendant un mois, qui est disponible que quand on n'a jamais été abonné au Game Pass. Mais la conversion Gold à Game Pass, ça fonctionne toujours. Donc, voilà, l'astuce est répétée et claire, j'espère. On la répétera dans 3 ans quand je me réabonnerai, s'ils le font toujours en je sais pas, en 2027. Mais pour le moment, ça marche toujours. Et je précise, c'est pas une question de favoritisme. J'ai fait la même chose avec le PlayStation Plus plus premium. Alors, il y avait un petit bug dans leur système qui permettait de faire un truc pendant 2 jours pour l'avoir à moitié prix. Mais du coup, je suis maintenant abonné au Game Pass jusqu'en 2026 et au PlayStation jusqu'en 2025, un truc comme ça. C'est pour le boulot, hein. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Ça coûte très cher. Mais c'est un sacrifice que je fais par professionnalisme. C'est pas une question de favoritisme à l'un ou l'autre. Si Nintendo avait la même chose avec des astuces pour avoir à moitié prix, je le ferais peut-être. Mais enfin, je suis abonné au online de Nintendo. Mais donc voilà, c'est une question de professionnalisme. C'est pour le boulot, c'est pour vous. Donc de rien. Je vous en prie.
Alors, je pensais que c'était là-dessus que tu allais me troller parce que j'avais fait part d'une astuce qui malheureusement ne fonctionne plus et qui consistait à l'époque à bénéficier du rabonnement à 1 euro, qui normalement est une offre qu'on te fait une fois. Tu as le droit de t'abonner au Game Pass une fois à 1 euro et après, bah, c'est une offre de lancement, on va dire. Tu as 1 euro le premier mois. Et les mois qui suivent, tu retournes au prix catalogue. Et en fait, il y avait une astuce qui consistait à s'abonner et à désactiver le renouvellement automatique. Et en fait, dès que votre mois d'abonnement à 1 euro se terminait, on vous reproposait de vous réabonner pour 1 euro. Enfin, vous pouviez. Ça ne marche plus malheureusement depuis janvier. Je pense qu'ils ont effectivement écouté l'émission Gothic qu'on a fait ensemble où on en reparlait. Et alors moi, j'ai quand même réussi à bénéficier une dizaine de fois de ce tips. Alors est-ce que c'était un bug volontairement laissé sous le tapis, sous le manteau, ouais, pour
Disons que Microsoft, clairement, ils veulent des abonnés autant que possible, donc ils ont laissé ce genre d'astuce. Et ça, c'est officiel, hein, la conversion Gold.
Oui,
Gold
tout à fait.
Passe, donc. Mais cette astuce a un je peux imaginer qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va arrêter ça.
On va arrêter. Ouais, effectivement. Et ça ressemblait vraiment à un bug plus qu'à autre chose, quoi. Et effectivement, ouais. Donc toi, l'astuce toujours valable dont tu parles, j'en avais profité aussi quand j'avais commencé le Game Pass en 2019. Bien utile.
Tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour les astuces et les messages de service. Donc maintenant, vous savez, et maintenant ça fait quoi, 45 minutes qu'on a commencé l'émission, on peut parler des news. Donc les news, la première, la plus importante, c'est ce qui s'est passé du côté de Sony, enfin la plus importante, celle dont on va parler en premier, ce qui s'est passé du côté de Sony au CES. Il y a eu une démonstration du PlayStation VR 2 et il y a eu aussi une présentation de leur nouvelle manette Leonardo, faite pour l'accessibilité. Alors, la première chose, donc, le PSVR 2, ce qu'il en ressort, c'est qu'il est plutôt très confortable, il est de très grande qualité et ça fonctionne au niveau de la qualité du matériel, quoi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les gens qui ont mis la tête dessus étaient convaincus. Une note, c'est que le seul petit bémol, bon, y a toujours un câble, évidemment, hein, ça, c'est pas surprenant, mais les retours haptiques, les vibrations, sont pas aussi convaincantes que dans les manettes de la PlayStation 5. C'est vraiment juste une vibration un petit peu classique, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Mais à part ça, le matériel est bon. Après, les jeux, il n'y en a pas énormément. Alors, ils ont précisé qu'il y aurait un mode VR pour Gran Turismo 7. On ne sait pas si ça sera genre tout Gran Turismo 7 en VR. Je pense que c'est peut-être le cas, mais on ne sait pas, ou si c'est un mode spécifique qui sera dédié à la VR avec une partie du jeu global. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais à part ça, le problème reste le même, le problème des logiciels, quoi. Moi, perso, j'étais assez chaud pour l'acheter et je crois que je ne vais pas l'acheter. Est-ce que ici vous allez acheter le PSVR 2, Eska ou Malo?
Je suis pigiste, donc tu as ta réponse.
C'est l'un des problèmes. Le prix est l'un des problèmes.
Malheureusement, je pense que c'est peut-être le premier device VR qui me donnait envie de passer le cap. Et puis, ils ont annoncé le prix. Et voilà.
Clairement. Alors, je disais à ma compagne que quand ils allaient probablement, parce qu'on savait depuis un moment qu'ils travaillaient dessus avant même qu'ils l'annoncent, qu'ils allaient faire une nouvelle version de leur casque, j'avais dit ce coup-là je le prends. Je l'avais pas pris sur la PS4, j'en ai pas sur PC, et je me suis dit bon là je vais le prendre. Et effectivement, quand le prix est sorti, j'ai dit ah bah non,
C'est
du
ça.
Coup, non. Du coup, non.
Eh ben, on est un petit peu tous dans la même situation, et ça va pas changer d'ici la sortie puisqu'elle arrive en février. Hein, donc, bon, ceci dit, Call of the Mountain avait l'air très bien. Les retours sont très bons sur le jeu exclu, mais bon, après 3 heures de Call of the Mountain, je sais pas combien de temps il dure, mais j'imagine que c'est pas 20 heures non plus. Je sais pas si ça vaut les 600 € de PS.
Plus le prix du jeu.
Plus le prix du jeu, ouais.
Ouais, je.
Ouais, bon, on est.
Moi, je te le dis, ça les vaut pas. Hein.
Bah oui, je crains que beaucoup de gens arrivent à cette conclusion. Par contre, un truc. Oui, pardon. Vas-y.
Oui, j'allais dire que ça aurait pu les valoir si le casque pouvait être branché ailleurs. Quoi.
Oui,
Si tu pouvais le mettre sur PC, ouais.
On est d'accord. L'autre chose qui a été annoncée, c'est le projet Leonardo. Qu'est-ce que c'est que Leonardo ? C'est la réponse, en fait, de Sony à Microsoft dans le domaine des manettes adaptatives, des manettes conçues pour les personnes en situation de handicap. C'est intéressant parce que l'approche a l'air vraiment différente. Les manettes de Microsoft, c'est un petit peu des trucs hyper modulables où on peut brancher toutes sortes de manettes différentes et tu comprends comment ça pourrait être customisé avec des gros boutons, différents types de boutons. Là, Leonardo, c'est deux demi-manettes, mais qui sont en fait beaucoup plus designées, avec d'un côté le joystick pour contrôler et puis de l'autre une sorte de rosace de boutons qu'on peut changer pour en mettre des un peu plus grands, des un peu plus petits. Il y a aussi des jacks pour brancher des manettes qui sont spécialement designées comme celles de l'adaptative contrôleur de Microsoft, mais ça ressemble beaucoup plus à un truc designé Sony. Alors, ils ont visiblement travaillé, en tout cas c'est ce qu'ils disent, avec des organisations de joueurs en situation de handicap comme Able Gamers ou d'autres, et ils l'ont développé en collaboration avec eux, donc on imagine que c'est ce dont au moins une bonne partie des personnes dans ces situations ont besoin, mais c'est marrant de voir la différence de type de manette. Bon, je sais pas s'il y a énormément de choses à dire là-dessus, c'est cool, et c'est bien que ça se fasse. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Ils sont un peu en retard, Sony, ils sont clairement poussés par Microsoft pour ça, mais c'est cool que ça arrive, quoi.
Oui.
Je suis en train de chercher des images de la manette Xbox. C'est vraiment hyper différent, quoi. On a une sorte de truc plat avec tout qui est customisé. Ensuite, on branche pour chaque bouton un bouton différent envoyé par Jack sur la manette de la PlayStation. Je me demande si ça sera moins adaptable à différents types de motricité et de handicap. Mais bon.
Bah, j'espère au moins que tu peux mapper les touches comme tu veux, quoi, parce que sinon.
Ah bah c'est évidemment. Non mais ça, c'est la base. Mais t'as vraiment des boutons différents que tu peux mettre. Tu peux aussi brancher des trucs externes. Mais ça a presque l'air d'une manette, je sais pas, qui aurait pu sortir, genre manette spéciale RPG, tu sais. Comme à l'époque de la PS1, PS2, il y avait les manettes spéciales, genre tous les boutons sont disponibles sur une main, ou ce genre de truc.
Mm-hmm. Ouais, après, je pense que t'as tout dit, hein, clairement, il rattrape un retard plus que... Ouais. Enfin, voilà, quoi. Je me suis pas extasié en voyant ça, contrairement, effectivement, à la démarche de Microsoft qui... On va dire, bon, j'ai toujours du mal à parler de bienveillance quand on parle de d'entreprise de ces tailles-là et d'ouverture quand même à l'inclusivité qui aujourd'hui devient un sujet vraiment très présent dans tous les domaines. Donc voilà, bah c'est bien, ils l'ont fait, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est moins ouvert au niveau de l'utilisation que ce qu'avait pu faire Microsoft. Voilà, t'as tout dit, hein.
On verra les retours des personnes concernées quand ça sera disponible. Je ne crois pas qu'on a de date de sortie, par contre, pour le projet Leonardo.
Non, il n'y a ni date ni prix. Ouais.
Ce sera livré en bundle avec le PSVR 2 au prix de 750 €, je pense.
Moi, je pense que le prix risque d'être un vrai sujet, hein, parce que Sony fait tellement, s'assure tellement de faire autant d'argent que possible sur tout ce qu'ils vendent, que je me demande s'ils ne vont pas faire un truc genre la manette adaptative à 259,99 €, quoi.
Et tu vois, même quand ils font ça, ils n'arrivent pas à se détacher de cette image récente de produits premium mais trop cher, un peu d'arrogance qu'ils ont depuis le lancement de la PS5, parce que cette manette là alors c'est super pour les joueurs PS5 en situation de handicap qui vont pouvoir adapter les manettes pour pouvoir jouer le plus tranquillement possible, mais ça reste un objet qui est complètement confiné à la PS5. Ouais. Contrairement à l'adaptatif contrôleur de Xbox qu'on peut brancher sur une console PlayStation et utiliser. Donc il reste encore, malgré tout, il y a cette super nouvelle de dire ok, on rattrape notre retard là-dessus, mais par contre on fait pas comme Microsoft quand même, on n'est pas aussi ouvert que ça. Et là ouais. Tu dis bon, tu dis ils vont pas au bout du truc quoi.
Et en plus, bon, on va pas faire toute l'émission dessus, mais en plus, j'ai l'impression que le design, c'est presque genre, non mais attends, on est Sony, on design nos trucs quand même, hein. Faut pas déconner. Au lieu de s'intéresser vraiment, et je veux pas parler pour eux, je sais pas, ça se trouve, c'est super, c'est exactement ce dont les personnes en question avaient besoin, et Able Gamers, qui est très connu dans le domaine, a l'air de dire, enfin, ils ont travaillé avec eux, donc c'est très bien. Mais c'est encore cette impression, peut-être subjective, que, bah ouais, ils font, attends, on va quand même pas ne pas designer notre truc. On sait qu'on veut faire des choses pratiques pour les personnes à mobilité réduite, mais faut quand même qu'on le design, notre machin. Et ça, c'est un peu cette question d'arrogance, j'ai l'impression, qu'on retrouve chez Sony. Ou peut-être pas, peut-être que c'est juste que c'est parfait pour ces personnes-là aussi, mais bon, c'est l'impression que ça donne.
On parlait du prix, hein, mais le Xbox Adaptative Controller, je regardais, il est vendu 90€. Quand tu vois que la dernière manette annoncée par Sony, la DualSense Edge, elle a été annoncée au prix de 240€, je crois.
Ouais, c'est ça, je crois.
Attendons de voir le prix, mais effectivement.
Attendons de voir le prix.
S'ils veulent en vendre, il va falloir être un peu malin, quoi.
Ben justement, le truc, c'est que pour ça spécifiquement, même si on est cynique, on dirait que c'est un effort marketing. C'est pas un effort de profit,
c'est
tu vois.
Donc du inclusivity washing.
C'est ça, mais autant tu vois pour Xbox, j'ai l'impression que c'est sincère. Autant là pour Sony, j'ai l'impression que c'est poussé par Xbox. Et alors, on attendra de voir le prix, mais il faut s'ils le vendent pas à prix coûtant au minimum. Et déjà, ça a l'air d'être cher de faire un truc comme ça. C'est ils ont raté, ils ont pas compris quoi. Bref, on va pas avant d'avoir le prix commencer à discuter de ça, mais on sera vigilant là-dessus. On nous demande, on peut parler du prix de la manette Elite de Xbox. Je comprends pas l'argument. La manette Elite de Xbox, elle est 100€ moins chère.
Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire.
Elle est à 149. Hein.
C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est un débat. Bref, bon. La question n'est pas celle de la manette Xbox. Oh, bon, bonne nouvelle quand même pour les PlayStation et Sony. Ils ont vendu 30 millions de PlayStation 5 à ce stade. C'est beaucoup, hein. Oui. Et c'est surtout, il y a eu une accélération ces derniers mois par rapport à la PS4. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu plus que de PS4 à ce stade, mais avec les pénuries, ils ont quand même réussi à vendre. Ils ont passé de 10 à 20 millions de PlayStation 5 en 320 jours. Ça avait pris 200 jours pour la PS4, mais ensuite il a fallu 216 jours pour passer de 20 à 30 millions. Alors que pour la PS4, il avait fallu 266 jours. Donc, elle est passée plus vite de 20 à 30 que la PS4. C'est intéressant. En gros, elle se vend très bien et je comprends pourquoi ils montent leur prix, parce que y a pas de raison de, tu vois, d'offrir des sous à tes utilisateurs. S'ils sont prêts à payer, bah, voilà. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que il y a désormais une offre satisfaisante de PlayStation 5. Donc, a priori, sans vous arracher les cheveux, si vous en voulez une, vous devriez pouvoir en trouver une dans un des revendeurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en aura des montagnes partout, mais vous cherchez un petit peu, vous devriez en trouver une. C'est pas la chasse infernale.
Ça commence. Ils ont annoncé la fin des pénuries. Alors ça, je me méfie toujours ce genre d'annonce là, parce qu'il suffit qu'ils disent ça pour qu'il y ait une usine qui ferme soudainement et qu'on reparte en galère. Mais ça, c'est un coup à invoquer le karma. De se dire, ça y est, il n'y a plus de pénurie, on est bon, tout va bien. Ça, c'est toujours quand tu te dis, c'est bon, la voiture sort de révision, rien, pouf, le pneu qui éclate, on connaît. Hein.
Exactement. Bah écoutez, vous nous direz hein, si vous réussissez à trouver des PlayStation 5 dans votre Carrefour ou dans votre Fnac à côté. Bah ça. Mais ça a l'air d'être d'être le cas quand même. Hein. C'est encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils en ont 40 qui attendent en stock. Mais bon. Et puis 30 millions, je pense que la plupart des gens qui en voulaient absolument une, ils l'ont maintenant, plus ou moins. Hein. Je doute qu'il y ait énormément de gens qui soient encore en train de téléphoner chaque jour au magasin pour essayer de la trouver et d'écumer les sites de réservation et de se faire scalper. Mais bon, qui sait. 30 millions, c'est un très bon début. La PlayStation 4 en est à plus de 100 millions maintenant, donc il y a du chemin à parcourir encore. Du côté de Microsoft, on a le Xbox Direct, enfin il s'appelle pas comme ça, il s'appelle le Developer Direct qui a été annoncé pour le 25 janvier. Ça va être leur présentation live depuis les développeurs. Il y aura 4 jeux qui seront présentés, The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall, donc pas de Starfield, qui est bien sûr la grosse sortie de Microsoft à venir. Et puis bon, c'est Microsoft qui rejoint le mouvement. Ils avaient leur, comment ça s'appelait, Microsoft Insider, le truc très américain où ils étaient sur scène avec des gens qui hurlaient.
Oui, oui. Je sais plus.
Je sais plus comment il s'appelait. Microsoft Insider, je crois, ou un truc de genre. Ils ont arrêté ça depuis un moment. Ils avaient
Inside
plus de
Xbox.
Xbox, merci. C'est ça.
Bien vu.
J'imagine que là, le développeur direct, ça va être, on va chez les développeurs et ils sont pas avec des foules en délire qu'on arrose avec du champagne, tu vois. Mais c'est bien, surtout que le truc qu'on retient de Xbox en 2022, c'est que il y avait rien. Donc là, il est temps de se remettre au boulot et de sortir, de faire parler de Microsoft pour autre chose que le procès avec la FTC. Donc c'est un bon début, ce format. Et puis on espère qu'ils en auront régulièrement, comme Sony qui devrait en avoir, hein, d'ailleurs bientôt. Et puis surtout Nintendo qui a lancé le mouvement. Vous attendez avec impatience ce développeur direct, Malo. Tu es intrigué par Redfall. Ils ont fait une bonne interview de Redfall d'ailleurs où ils disent que c'est pas tellement Left 4 Dead et un peu plus genre Far Cry 2 dans la structure, ce qui développé par Arkane est forcément intéressant. Mais moi je suis assez curieux. Tu l'attends toi ce développeur direct?
Alors pour le cas de Redfall, j'attends pas ce direct-là parce que tout jeu Arkane est acheté, c'est un principe de vie.
Ah. voilà. C'est un bon principe de vie, ceci. Voilà,
j'achète les jeux Arkane quoi qu'il arrive, même quand je suis un petit peu déçu comme Deathloop, même si j'ai aimé beaucoup de choses dedans, j'en suis pas ressorti aussi emballé que pour Dishonored ou Prey. Mais oui, j'attends vachement Redfall. Derrière, j'attends surtout Starfield. Le problème, c'est que visiblement, lui, il aura le droit à son direct à lui à part.
Sans doute.
Et en dehors de ça, j'ai encore un peu du mal à voir où va Microsoft avec ça. Parce que, bon, on attend beaucoup leurs annonces. Parce que l'année dernière, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Mais je ne suis pas un gros joueur de Forza. En général, là, par exemple, Forza 5, quand il est sorti, comme il était Game Pass, je l'ai lancé, j'ai joué 10 heures et puis après, j'ai arrêté. Parce que bah, je me lasse vite de ce genre de titre. J'attends surtout de voir comment ils vont répartir leurs sorties. Parce que ça fait 2 ans qu'ils nous disent que les cartouches arrivent, que ça arrive, que ça arrive. Et alors autant j'ai pas de soucis avec ça parce que bah, le Game Pass m'occupe bien. J'ai acheté une Series X compulsivement en fin d'année pour être tranquille. Donc j'utilise le Game Pass, je fais Doom, je refais le premier Red Dead. Enfin je m'en sers pour plein de choses, les jeux indés, etc. Mais les jeux exclus Microsoft, pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose et j'attends plus d'être surpris qu'autre chose, en fait. À part Starfield et Redfall, j'ai pas d'attente particulière. J'attends, par exemple, des nouvelles de Vaud, dont on n'a plus du tout de nouvelles, qui a disparu, qui est même plus mentionné.
Alors, le fait qu'il n'y ait pas Starfield dans ce développeur direct, selon, je crois que c'était à l'E3, ils avaient montré un certain nombre de jeux en disant tous ces jeux seront dispo dans les 12 mois. Donc, oui, ça veut dire qu'en théorie, Starfield devrait être dispo d'ici juin. Le fait qu'ils n'en parlent toujours pas ici en janvier, je sais que c'est bien de... Enfin, on va redire... Pardon, on va redire ce qu'on a déjà dit par le passé. Starfield, on n'en a rien vu. Moi, je commence vraiment à m'inquiéter. Peut-être qu'il va être décalé, mais ils ne peuvent pas le décaler au-delà de 2023. C'est juste pas imaginable. Enfin, tout est imaginable, mais je veux dire, moi, ça me choquerait profondément. Mais on n'en a rien vu. Quand est-ce qu'ils vont commencer à en parler ? S'il sort en juin, bah alors déjà, le mois de juin est carrément bouché. S'il rajoute Starfield, ça me paraît beaucoup, peut-être même. Mais, enfin, tout le début d'année est bouché. Mais juin, c'est le plus tard. Quand est-ce qu'ils vont en parler ? S'ils le sortent en avril, il faudrait peut-être qu'on voit une image du jeu, quoi. Je sais pas, un truc.
Bah, puis il y a Elder Scrolls aussi, non ?
Elder Scrolls, ah non, mais ça, on ne le verra pas avant 2030. Elder Scrolls 6.
Ouais, ouais, ouais.
Oui, non, mais ça, c'est clair.
Ah, oh, vous n'êtes pas drôle.
Bah, désolé, mais tu vois, vu comment ils ont pris leur temps sur Starfield.
Bon, après, moi, c'est pas un truc qui me pose souci. J'en suis revenu de râler sur les reports parce que.
Bah, non, c'est pas une question de report.
Non, mais
pour être clair, moi je parle pas d'un problème de report. Je parle
c'est
du problème qu'on a rien vu du jeu. Ouais, je
c'est
me dis, est-ce qu'il va.
Pourquoi
il le montre pas ? Mais pourquoi il le montre pas ? Est-ce qu'il est tellement en mauvais état ? Tu vois, mon esprit navigue dans ces eaux-là, quoi.
En fait, je pense qu'ils ont très peur de se planter dans ce qu'ils montrent. J'ai le sentiment qu'ils veulent à tout prix éviter qu'on parle continuellement du Skyrim de l'espace, parce que ça, depuis l'annonce, c'est comme ça qu'on l'identifie. Régulièrement...
C'est comme ça qu'eux l'ont identifié. Hein,
oui, et puis finalement, ils en sont revenus, il y a encore 3 semaines, ils disaient « Oui, mais c'est pas vraiment Skyrim dans l'espace.
Ouais. »
là, hein. Donc, je pense qu'ils se prennent la tête sur ce qu'ils vont montrer du jeu pour donner vraiment envie. Et pourtant, il y a de quoi donner envie avec toutes les ambitions qu'ils ont sur les grandes cités, sur la personnalisation du vaisseau, sur ce côté un peu No Man's Sky.
Oui, mais on a eu que des déclarations d'intention. Ah, oh, il y aura 1000 planètes, oh, il y aura machin, oh, il y aura truc, mais on n'a rien vu. Donc, on a
voilà,
vu des concepts. Mais...
Bon, là, qu'on ne le voit pas là, c'est pas en soi, c'est pas un souci, parce que je comprends le fait de se dire, OK, c'est notre énorme cartouche, parce que c'est un jeu.
Donc, on va faire un.
Voilà, qui a des chances de vivre sur 10 ans, tu vois, comme Skyrim, qui est sorti il y a 11 ans maintenant. 12 bientôt, et qui continue à vivre, donc qu'ils le mettent pas au milieu du reste en se disant ok, on va prendre une heure prochainement et on va parler que de ça et vous allez voir 3/4 d'heure de gameplay dans tous les sens et on vous donne la date définitive et ça sort. Je sais pas comment en fait ils veulent gérer la communication du jeu. Ils veulent inciter au Game Pass, mais en même temps, comme c'est une grosse cartouche, il faut peut-être en vendre aussi. Est-ce qu'ils vont partir dans un sens du écoutez, prenez un mois de Game Pass à 1€, vous l'essayez, vous verrez, ou alors est-ce qu'ils veulent donner vachement envie pour que les gens aillent acheter la boîte, quoi ?
Écoute, c'est la question. On me dit dans la chatroom, mais si, il y avait plein de choses dans le. Au dernier E3.
Il y a eu un quart d'heure de balade et de gunfight mou.
C'est ça. On n'a pas vu grand chose. Je remets la vidéo là. On a vu du. Ah merde, je remets la vidéo. Il y a la pub parce que je suis pas connecté sur le bon truc. Mais...
Et moi, ça me donne envie. Hein. Ce qu'on a vu,
non,
me donne envie. Mais
ce que je veux dire, c'est que on sait toujours pas à quoi correspond le jeu concrètement. Ce qu'on va faire, on a vu un petit peu de balade, un petit peu de... Mais c'est infernal, YouTube sans Z Premium. Dès que j'essaye de bouger dans la vidéo, il me remet une pub. Pas déconner.
Oui.
C'est... on a effectivement vu un petit peu de gunfight, mais ça m'a pas donné très envie, quoi. Et on n'a pas vu ce qui faisait le sel du... Enfin bon, bref, c'est marrant parce que... C'est la malédiction de Microsoft aujourd'hui. Quoi qu'ils disent, de quoi qu'ils parlent, on va leur demander de parler de Starfield. Tout le monde est à fond sur Starfield. Donc forcément, on est un petit peu excité là-dessus. Alors que là, ils vont nous présenter Redfall, par exemple. Il a l'air intéressant, Redfall. Toi, tu vas l'acheter direct, Malo.
Oui.
Est-ce que tu es intrigué par ce Redfall qui serait donc plus... monde ouvert que arcade de Left 4 Dead, de mode arcade, on aurait plus de monde ouvert en grande coop. Moi, je suis très intrigué, en fait. Et du coup, je vais suivre cette partie du développeur direct avec beaucoup d'attention.
Mais je suis un peu dans le même clan que Malo, hein. C'est-à-dire que tout ce qui sort de chez Arkane en général, je ne réfléchis pas trop. Enfin, je me doute qu'en termes de qualité, ça va être top. Après, moi, je suis une grande joueuse, enfin, j'étais de Left 4 Dead, donc du coup, moi, ça me plaisait bien, tu vois, que ce soit un Left 4 Dead-like. Après, bon, bah, du coup, je vais attendre de voir, je vais me renseigner un peu plus. Je suis un peu moins joueuse de jeux à la Far Cry, donc peut-être qu'au final, ça s'adressera moins à moi que ce que j'aurais aimé au début. On verra bien. Quoi qu'il arrive, effectivement, je reste intriguée et bien évidemment, Starfield, bah, je l'attends énormément. Donc, je fais juste un gros plus un sur tout ce que vous avez dit auparavant.
Oui. Je me souviens d'un truc sur Redfall qui date de... Ça doit dater du début de l'année dernière où il y avait eu une fuite. Et en gros, dans la fuite, il y avait des documents qui expliquaient qu'en solo, on était sur une exploration en monde ouvert, ce qui se rapproche justement de ce qu'ils disent à propos de Far Cry, et qu'en coop, c'est un peu plus action, un peu plus nerveux, un peu plus... Donc il y aura peut-être un peu deux types d'expériences, et c'est là que je pense que Arkane est le studio parfait pour réussir à faire ça, c'est de proposer un truc solo... qui colle avec leur vision du game design, etc. Et un truc plus multi. Mais bon, c'est comme d'habitude avec Arkane, il faut faire une notice de 800 pages pour comprendre ce qu'ils veulent nous faire faire tant qu'on l'a pas dans les mains. C'est hyper dur pour eux, ça, ouais. Parce que leur jeu, je les trouve vraiment cool. Il y a toujours des idées qui sont hyper intéressantes. Mais bon, Dinga Bakaba est toujours obligé de faire un paperboard en vidéo pour nous expliquer comment ça marche. Quoi.
C'est ça, ouais. On nous demande est-ce qu'il y aura des surprises potentiellement dans ce direct. Je pense pas, parce qu'ils citent vraiment les trois jeux dont ils vont parler et ils disent pas et quelques autres surprises. Et en communication, tu veux pas que les gens commencent à avoir des espoirs.
Est-ce que je peux te couper deux secondes?
Bien sûr.
Pour une petite nouvelle, Prime Video vient d'annoncer que la série Last of Us sera disponible sur Prime Video dès le 16 janvier.
Mais non.
Ah, donc ils ont gagné les droits pour... très bien, bah, bonne nouvelle.
Je viens de vous passer, je me suis dit que ça peut intéresser les gens. Donc...
Bah oui, complètement, c'était la grande question. Elle arrive le 15 sur HBO Max dans 3 jours et du coup elle sera disponible sur Prime Video. Et c'est la bonne nouvelle parce que c'est le moins cher des services.
Et merci à Anna qui m'a transmis l'info.
Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, en communication, tu veux pas que les gens aient des espoirs déçus. Et donc, si là, ils disent pas qu'il y aura, et peut-être quelques autres surprises, et qu'ils donnent des surprises, tout le monde va s'attendre à des surprises à chaque fois qu'ils auront un développeur direct. Donc, à mon avis, il y aura ces 4 jeux, et basta, ils ont été très spécifiques. Et bon, Forza Motorsport, c'est comme Gran Turismo, c'est un peu niche, c'est vraiment les fans de voitures et de cuir de siège qui sent pile la bonne odeur et tout. Elder Scrolls Online, bon, pourquoi pas, c'est un jeu qui continue son petit bout de chemin. Minecraft Legends, ok, ça peut être une approche une sorte de Pikmin tactique... RTS original, mais c'est surtout Redfall le gros morceau, quoi, ça c'est clair. Donc on verra dans 15 jours, on en reparlera. Et puis la dernière chose à évoquer, c'est ce qui se passe avec Ubisoft, qui a annoncé hier qu'ils étaient dans la merde, en fait. Bon, pas complètement dans la merde, mais ils ont encore décalé Skull and Bones. C'est toi, Malo, qui sur Twitter disait, je crois...
Que ce sera notre état quand c'est le nom
quand
de c'est le nom de voilà, c'est la définition de notre état quand il sortira.
C'est ça, il a été décalé genre 6 fois, mais à la limite ça c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'ils ont encore annulé 3 jeux non annoncés. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont plus sorti de gros jeux. Il y a Assassin's Creed qui est pas, il y a des sortes de DLC et de machins qui les font vivre, bien sûr, mais il n'y a pas eu de grosses sorties. Enfin, en plus de ça, ils ont des pertes annoncées aux investisseurs. Ils veulent arrêter d'embaucher. Alors, ils vont pas renvoyer qui que ce soit normalement, mais ils réduisent la voilure. Enfin, il y a vraiment des gros soucis. L'action est passée de 100 à 25 euros en 2 ans. Enfin, c'est limite, tu te dis, est-ce que Microsoft, pour distraire de leur rachat d'Activision Blizzard, ils vont pas dire, bon, bah, on va prendre Ubisoft aussi, comme ça, voilà, on met ça dans la poche.
C'est la garantie qu'il n'y aura aucun rachat s'ils font ça. Parce que l'Activision européenne va dire, là, vous vous foutez de ma tronche, quoi.
Non, mais évidemment. mais ce que je veux dire, c'est que Ubisoft, là, ils vont... Enfin, c'est pas que je m'inquiète pour eux, faut être clair. J'ai vu des gens dire « Oh mon Dieu, Ubisoft, ça va pas... » Non, ils ont quand même beaucoup d'IP, beaucoup de trucs sur lesquels ils travaillent. Il y a des jeux Star Wars, enfin, il y a un Assassin's Creed qui arrivera bientôt, en plus de celui de cette année, il y en aura un autre qui viendra après. Ils vont pas couler, quoi. Mais... il y a quand même une certaine inquiétude sur leur situation, quoi. C'est pas le beau fixe chez Ubisoft. Là, en plus, les ventes de Sparks of Hope, Mario,
ont
été décevantes. Enfin, ouais.
Alors, c'est pas faute d'en avoir dit du bien la dernière fois.
Ah ben, tout le monde en dit du bien, c'est ça qui est surprenant. C'est pile la situation où un jeu, il faut pas juste qu'il soit super bien, parce qu'il y en a trop des jeux super bien. Donc, et celui-là, il a pas... Enfin, il s'est vendu, mais il s'est pas vendu autant qu'il l'espérait, quoi.
Ouais, alors j'ai une petite théorie là-dessus. C'est une petite, hein, c'est de. Ah, ça y est, le mot m'échappe. Mais je théorise. Ça ressemble vachement à ce que fait une entreprise quand elle a envie d'être achetée.
Guillemot, il y avait l'investissement de Tencent il y a pas longtemps. D'ailleurs, Tencent aussi pourrait racheter. On nous dit dans la chatroom, c'est 2,5 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est rien pour une boîte comme ça, je veux dire, pour l'un des fleurons du jeu vidéo. Après, Guillemot, il faut qu'il vende ses parts, mais peut-être qu'il a envie maintenant, moi je crois pas, mais c'est vraiment une situation particulière, quoi. Pardon, je t'ai interrompu.
Il peut être forcé un peu par son conseil d'administration de lui dire, écoute, il va être temps de commencer à préparer les choses. Et il y a ça, et il y a aussi, alors on y pense moins parce que ça se fait dans le temps, mais les conséquences de toute la réorganisation du pôle éditorial de chez Ubisoft après la publication des enquêtes, etc., où il y a plein de gens qui sont partis, il y a une réorganisation en profondeur qui a été faite, il y a A Better Ubisoft, donc le regroupement des salariés qui n'est pas un syndicat mais qui est un groupe de défense des travailleurs de chez Ubi, qui communiquent sur les changements qui sont faits. Ça va pas assez loin ou ça va trop, ça va assez vite, c'est difficile de voir où ça va, mais en tout cas il y a visiblement une conséquence quand même assez directe de la réorganisation de l'édito, avec ces équipes qui travaillent sur plein de choses. On a plus de nouvelles du remake de Prince of Persia. Assassin's Creed est en train de se centraliser autour d'un truc un peu service, avec une expérience plus courte pour réamorcer la machine. On a l'impression qu'en fait ils rationalisent vachement. On met plus en avant les productions qu'ils vont faire. Alors à voir ce qu'ils vont faire, mais oui, je vois dans le chat que ça ressemble à une gestion de club de foot, et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des équipes dans tous les sports confondus qui vont recruter beaucoup, augmenter les effectifs, et puis après dégraisser pour avoir un peu la quintessence. Et là, peut-être qu'ils sont simplement en train de complètement repenser leur truc pour les années à venir, pour complètement être dans la dynamique de la nouvelle génération, tu vois, en disant on va sortir moins de jeux parce qu'ils sont beaucoup plus longs à faire. Mais je pense qu'il y a une conséquence avec la réorganisation du pôle éditorial.
C'est possible, ça a forcément dû avoir une influence. Il y a aussi des tentatives de... Enfin, il y a eu combien de jeux-services qui se sont plantés, qui n'ont même pas sorti. Il y a, je ne sais plus, trois jeux Ghost Recon et les Breakpoint et les... Enfin, je ne me souviens même plus des noms, mais il y en a eu des tonnes, certains qui ne sont pas sortis. Il y a eu plusieurs Battle Royale qui se sont plantés. Enfin, c'est clairement... C'est pas que... On recule pour mieux sauter, tu vois. On nous mentionne aussi Beyond Good and Evil 2, qui est devenu une blague, quoi. C'est ridicule le stade où on en est. Bref, clairement, encore une fois, je pense qu'ils sont pas en situation dangereuse pour la boîte. C'est pas qu'elle va fermer demain. Mais il y a des problèmes de gestion, il y a des problèmes de... En même temps, on se dit, vaut mieux annuler les jeux que de les sortir et de se dire, on va récupérer 50 millions sur le développement et ça va abîmer notre image de marque. Donc, d'une certaine manière, c'est la bonne décision pour leur santé sur le long terme et les joueurs qui vont pas se faire arnaquer à acheter un jeu pourri. Donc, c'est une décision courageuse, mais... C'est le genre de truc où tu dis, c'est courageux, mais au bout de 3 ans de courage, tu dis, mais il faut aussi peut-être faire... C'est comme Microsoft. C'est bien qu'ils sortent pas leurs jeux, mais au bout d'un moment, il faut quand même que tu te dis, si rien ne sort, c'est qu'il y a un problème quelque part dans la gestion ou dans la... Bon, même si c'est bien de pas les sortir et de leur donner le temps de les finir, quoi.
Oui, puis il y a ça, et aussi le fait que comme ils allaient très bien, ils ont tenté plein de choses, et que maintenant ils reviennent à quelque chose d'un peu plus, sur les fondamentaux, tu vois, avec des séries qui fonctionnent, des formules qu'ils connaissent. Ils ont tenté plein de choses parce qu'ils faisaient record sur record dans les bilans financiers. Ils se sont dit c'est le moment de voir jusqu'où on peut aller en proposant des choses.
Ce qui est pas
là,
bête.
Là, ils se calment. Oui, ce qui est pas bête. Il faut en profiter donc ça va. C'est pas quand t'es en liquidation qu'il faut tenter des projets. Hein. les développeurs de Payday s'en sont rendus compte.
Ouais, ouais. Très bien, bon bah voilà pour Ubisoft, c'était la troisième news importante de cette semaine, et donc on va passer maintenant à nos jeux du moment, les jeux auxquels on joue, les jeux sur lesquels on passe du temps ces dernières semaines.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Peut-être honneur aux invités, Mallory. Il y a le jingle. Mallory, à quoi tu joues en ce moment? Eh ben,
alors, je viens de terminer God of War.
Ragnarok. Bah, vous allez bien vous entendre avec. Est-ce que tu l'as fini, Eska? On ne spoil pas, hein, mais. Tu l'as fini, Eska?
Non, mais je ne dois pas être loin de la fin, je pense. J'ai bien avancé, mais je prends tellement mon temps. Ce que je disais la dernière fois, je me délecte de chaque minute.
Est-ce que tu t'es délecté du jeu, toi aussi, Malo?
Alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début. Je l'avais un peu laissé de côté pour faire d'autres jeux en fin d'année et je l'ai repris et j'ai fait d'une traite les 25 heures qui me manquaient pour finir le jeu. J'ai joué qu'à ça pendant une semaine et je suis arrivé au bout. Il me reste deux boss optionnels qui sont beaucoup trop durs pour moi. Je ne suis pas assez doué. Je suis arrivé au bout. J'ai beaucoup aimé. C'est le genre de jeu qu'on a du mal un peu à laisser en se disant bon ça y est j'ai fait le tour maintenant. Il serait temps de passer à autre chose, j'ai un peu du mal à le laisser. À quoi d'autre je joue? Si, j'ai pris. Alors, ça faisait longtemps.
Attends une seconde, du coup je passe à Eska, à moins que t'aies. Enfin, si t'as quelque chose à ajouter sur God of War, je sais que tu l'as mis dans la liste aussi. C'est le moment où c'est juste, tu continues à t'en délecter et c'est toujours cool. Eska?
Ah pardon, j'ai cru que tu posais la question à Mallory.
Dans ta liste aussi.
Oui, et de toute façon, c'est mon principal jeu, donc clairement, c'est là-dessus que je suis à 100% en ce moment. Oui, alors, je me délecte, mais là, je t'avoue que je suis tombée sur une grande zone. À mon avis, c'est la dernière. Et le temps commence éventuellement à devenir un petit peu long. Mais bon, c'est toujours... Oui, je trouve que l'intrigue ralentit un petit peu. Tu vois, la dernière fois, j'avais dit « il n'y a pas de ventre mou ». Là, si, il y en a quand même un qui commence à se dessiner un petit peu. Je sais qu'on est juste après les fêtes. Il a peut-être mangé un peu trop de foie gras, je ne sais pas. Sinon, je m'amuse toujours autant. J'ai par contre baissé la difficulté du jeu parce que j'étais tombée sur des combats un peu trop corsés et ça commençait à me frustrer. J'attends toujours de voir la fin de l'intrigue. Enfin voilà, je suis toujours pendue à l'histoire. La musique est toujours aussi merveilleuse. J'en prends toujours plein la vue. Je m'amuse quoi, tout simplement. Je renouvelle le fait que c'était pas mon GOTY, mais j'adore ce jeu quand même.
Moi, je l'ai fini. Je crois que je l'avais pas fini. Ou est-ce que je l'avais fini quand on a fait notre épisode des GOTY? Je me souviens plus. Si, je crois que je l'avais déjà fini au moment où on en parlait. Et justement, j'avais dit que j'étais un petit peu déçu par la longueur du truc. Il aurait fait 10 heures de moins, ça aurait été beaucoup mieux. Mais...
Et je pense que je comprends. À mon avis, je suis dans la zone où tu as dû te dire ça, je pense. Ouais. Et je te dis des bêtises. J'ai dit que c'était pas mon GOTY, mais bien sûr que si, c'était mon GOTY.
Il faisait partie de tes GOTY, oui.
Mais je l'avais pas fini.
Donc, ok, bon, God of War Ragnarok, toujours dans les esprits. À quoi tu joues d'autre, du coup, Malo?
Alors, j'ai écrit il n'y a pas longtemps un article sur un modèle de PNJ dans Half-Life qui était recopié d'un manuel de médecine légale. Ils avaient pris le visage, ils avaient reproduit le visage d'une personne brûlée d'un manuel de médecine légale et ça m'a donné envie de rejouer à Half-Life. Donc, du coup, j'ai acheté Black Mesa. pour refaire le premier.
Le fan remake.
Ouais, qui a été ensuite validé par Valve et soutenu, etc. Et qui est devenu plus ou moins un remake officiel. Et je joue aussi à Marvel's Midnight Suns, qui m'a été offert à Noël et que j'aime beaucoup malgré les ralentissements, malgré les crashs sur mon PC. je sais pas si ça vient de l'opti du jeu ou de mon PC, mais bon, je fais tourner Horizon et des Red Dead 2 en ultra, donc ça, a priori, c'est pas mon ordi. Mais j'aime beaucoup
entendu parler de Midnight Suns. En fait, la plupart des gens semblent dire que c'est au niveau des combats super sympa.
Ouais.
Par contre, tout ce qui est dating sim, c'est vraiment pas convaincant. D'une part parce que c'est quand même assez long, mais surtout les voix, l'écriture est moyenne. Les voix, tu sens qu'ils étaient chacun dans leur coin, dans leur studio d'enregistrement et qu'ils se sont jamais vus. Et c'est très mal joué. Donc, je suis un peu. Beaucoup de gens disent, je l'adore malgré les défauts de la partie où on parle avec nos amis, alors qu'elle représente genre presque la majorité du jeu, quoi. Tu es de cette école ou...
Alors, je sais pas si les voix, c'est pour la VO, mais en VF, je la trouve pas dérangeante. J'ai reconnu tout de suite la voix de Donald Renew qui fait Peter Parker, qui retrouve son Spider-Man. Ça me dérange pas plus que ça, ça fait une respiration, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogues et beaucoup de petites activités à faire avec les différents personnages. Bon, la modélisation, malheureusement, Firaxis, ils n'ont pas eu accès au studio d'enregistrement de Sony pour la motion capture. Donc ça fait un peu figé, ça fait un peu poupée. Mmh. Mais c'est vrai que le système de combat par carte et par capacité qu'on pioche, ça fonctionne très bien. On peut projeter les ennemis sur d'autres ennemis pour faire des enchaînements qui sont... C'est très plaisant, en tout cas. À jouer, on sent quand même que bon, c'est des gens qui ont fait XCOM et qu'ils aiment bien ils savent de quoi ils parlent, même si ils ont édulcoré beaucoup leur formule, hein, ça n'a pas grand chose à voir dans la pratique avec XCOM, hein, tu rates pas tir à 97% dans Marvel Midnight Suns, ça n'arrive pas.
Mais ça fait partie des trucs dont il disait, quand t'es un super-héros, tu vas pas rater ton coup spécial sur le petit... je sais pas. Donc ils ont changé complètement le système, ouais. Et ça fonctionne.
Et la synergie entre les personnages, c'est là où le côté un peu de dating sim, colonie de vacances, fonctionne bien. C'est que ça te permet de débloquer des capacités communes qui ensuite intègrent les decks quand tu utilises les personnages, etc. Donc je le trouve très plaisant tactiquement à jouer. Par contre, oui, c'est très long, ça parle beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi ils ont voulu aller vers ce truc-là. J'ai un peu le sentiment qu'à la base, il y avait un délire à l'Académie X-Men et que finalement, ils sont revenus vers cette abbaye et ces personnages-là. Mais il y a un côté très teen, très, très ado que je retrouve quand je lis un comics X-Men, tu vois.
Bah oui, le manoir du professeur X aurait été parfaitement adapté, quoi. Là, ça fait un peu bizarre. Bon, ok. Mais en tout cas, il plaît et les retours sont vraiment positifs de tout le monde dans l'ensemble, même si certains n'aiment pas tellement cette partie dating sim. Très bien. Bah, merci pour tes retours. Escarina, toi, tu joues en plus de God of War, tu joues aussi à Mario & Rabbids Sparks of Hope, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors bon, là forcément je l'ai mis un petit peu en pause pour avancer dans God of War, mais je vais le reprendre très bientôt. Là, dans une dizaine de jours je pars en vacances et du coup j'aurai ma console avec moi et je vais essayer d'avancer le plus possible. Écoute, je m'amuse toujours autant. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit dans les premiers épisodes où j'en parlais que je trouvais la DA absolument horrible, je trouvais le jeu vraiment très moche et pas d'un point de vue technique.
Excuse-moi, dans la chatroom, on me dit Midnight Sun, c'est un jeu passable. Game passable, mais vous savez, c'est un jeu passable. Et je suis assez d'accord, je ne vais pas l'acheter parce que j'attendrai quand il arrivera sur Game Pass, ça sera parfait. Excuse-moi, et je pense que ça arrivera. Donc tu disais, tu trouvais ça super moche, Sparks of Hope, et finalement...
Oui, je reviens un petit peu dessus. Je pense que c'est les... Il y a eu une DA sur
c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'ils n'en ont pas vendu assez.
Ils
sont en mauvaise posture.
J'avais oublié à quel point j'étais une influenceuse de de haute volée. Donc non, je reviens un petit peu là-dessus. Je sais pas, ça devait être les deux premiers mondes là que je trouvais effectivement pas très jolis. Mais sinon, non, je m'amuse. Après, je trouve malgré tout que c'est répétitif. L'accumulation des deux, au final, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Il y a des petites mécaniques en plus qui sont sympathiques, mais je trouve qu'au global, j'ai trop l'impression de refaire le premier. Donc, je m'amuse, mais on peut pas dire que je m'éclate, quoi.
Il l'avait énormément changé, ils avaient des nouvelles mécaniques, enfin que le système était vraiment original, non ?
Je veux bien savoir en quoi, ou alors j'ai pas assez avancé dans le jeu, mais c'est les mêmes personnages, à quelques exceptions près, c'est la même mécanique d'arbre de compétences. Ils ont rajouté.
Tu peux courir avant de partout et même avant ou après avoir fait ton attaque, je crois, ou il y a ce genre de truc, non ?
Ouais, dans les sauts d'équipe.
Je sais pas,
oui,
pas
jouer je trouve beaucoup plus dynamique que les premiers dans
ah
le
ouais,
combat,
mais...
parce que le premier tu te déplaces, tu te poses, tu tires, là tu peux te déplacer, envoyer un autre perso pour avancer, l'envoyer à un autre endroit, utiliser la première capacité, redéplacer ton personnage, c'est beaucoup plus souple je trouve dans les combats que le premier. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et fun à jouer que le premier.
Ça se trouve, est-ce qu'elle a juste racheté le premier et elle s'est pas rendu compte?
Ah, peut-être. Non, mais en fait, c'est marrant, j'avais pas du tout ce souvenir-là du premier. Alors, je sais, après, j'ai une mémoire de poisson rouge qui me joue des tours, mais j'avais pas ce souvenir de manque de fluidité dans les combats du premier. Je m'étais vraiment beaucoup amusée sur le premier, donc. Mais voilà, donc là, du coup, je m'amuse toujours autant. J'attends de voir où ça va mener. Là, j'en suis au troisième ou quatrième monde, donc voilà, c'est sympatoche, mais je suis un petit peu moins emballée que sur le premier. C'était juste un effet Madeleine de Proust, je ne sais pas.
Ouais.
Ça, je te dirai ça à la fin.
L'une des seules personnes dont j'ai entendu que tu l'aimais peut-être un peu moins que le premier, c'est marrant.
Bah écoute, oui, c'est peut-être mon souvenir qui me joue des tours. En fait, j'avais tellement été emballée par le premier que là...
Ouais, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, parce que c'est pas que le premier n'était pas dynamique, c'est que tu avais, comme dans les jeux de stratégie de ce type, souvent, tu te déplaces et après tu tires et après c'est fini. Et dans celui-ci, le fait de pouvoir continuer à se déplacer et faire d'autres choses rajoute des options tactiques importantes. Mais toi, ça...
Ouais, effectivement, t'as des combos entre les personnages qui sont intéressants et qui te permettent de jouer sur le nombre de déplacements que tu peux faire. Je suis un peu perturbée par ce que vous dites. J'essaie de m'en remettre.
Ce que tu vas faire pendant tes vacances, tu vas rejouer au premier.
Je vais faire les deux.
Et puis après, tu refais les deux.
On va faire ça. On va faire ça. Non, par contre, moi, je trouve quand même qu'il y a un petit bémol, c'est que je trouve toujours que les interfaces sont pas ouf. Enfin, je trouve que la navigation dans les menus n'est pas toujours très bien pensée. Et en plus de ça, il y a des ralentissements quand tous les menus. J'ai un peu de mal à comprendre qu'on ait pu laisser ça dans la version gold du jeu, mais. Voilà. Mais
c'est parce qu'il l'avait prévu pour la Switch Pro. Et finalement, comme elle n'est pas sortie, tu vois.
Ah, c'est ça.
Ouais, moi, ça ne m'a pas choqué parce que je faisais Pokémon en même temps. Donc, si tu veux...
C'est ça. Après, chacun ses points de comparaison.
Exactement, oui. J'ai acheté pour mon fils, dont c'est l'anniversaire dans quelques semaines, j'ai acheté des livres de la bibliothèque verte. Il y a genre première bibliothèque verte. Des aventures de Pokémon. C'est genre mes premiers livres. C'est censé être pour le début de la lecture, mais là, je vais lui lire. Il est trop petit encore pour ça. Et je suis super excité de lui lire les histoires de Pokémon. J'ai jamais vu le dessin animé, j'ai jamais joué au jeu. Et donc, on va découvrir les histoires de Pokémon ensemble. On va lire ça. Ça va être super. Je suis super, super excité.
T'as jamais fait un Pokémon, Patrick ?
Jamais de la vie.
J'en ai savais pas.
Testé un petit peu. Et j'ai été assez... comment dire ? J'ai jamais accroché. Le problème, c'est que, comme je le raconte parfois, je suis un petit peu plus âgé que certains d'entre vous. Et du coup, quand Pokémon est sorti, moi, j'étais un grand, tu vois, j'étais un adulte. J'avais quoi, 18, 19, 20 ans. Donc, c'était pour les petits, quoi, Pokémon. J'avais pas joué à ce truc. Moi, je jouais à Tekken. Jouer à, tu vois, des jeux où tu te mets des pains, quoi. Et du coup, je suis passé à côté et j'ai jamais réussi à me remettre dedans parce que il y a quand même... Enfin, je sais pas, j'ai jamais accroché, quoi. Donc, peut-être qu'avec mon fils, ça arrivera à un moment, quoi. Et là encore, oui, et Hachi est supérieur à Pikachu, comme on dit dans la chatroom.
On va pas partir là-dedans.
Eh, quand même. Et Hachi, il jette ses enfants dans des volcans. Donc, tu vois, à un moment, il n'y a pas de comparaison. Bon, moi, à quoi j'ai joué ces dernières semaines? J'ai joué à un petit peu à High on Life, dont on entend pas mal de bien ces dernières semaines. Vous savez, c'est le jeu du créateur de Rick and Morty. J'ai pas joué beaucoup, hein. C'est vraiment genre, je sais pas, j'ai fait une heure ou deux. Et c'est marrant parce que la critique était pas très bonne, et pourtant c'est genre l'un des meilleurs lancements de jeux Game Pass, de l'histoire du Game Pass. Enfin, vraiment, il a l'air d'avoir un gros succès. Et c'est difficile à écrire. Je suis pas du tout client de Rick and Morty. J'ai regardé un petit peu, mais ça m'a pas du tout parlé. Mais sur ce que j'ai fait de High on Life, j'ai quand même... Comment dire ? C'est un humour qui est hyper lourd. Hyper lourd, High on Life.
Qu'est-ce que t'appelles « définit hyper lourd »
C'est-à-dire
que... Donne-moi un exemple.
Mais si tu... C'est difficile à décrire. Tu connais pas Rick and Morty ?
Tu sais, je fais un autre podcast qui s'appelle Super Gamer Side, et je pense qu'en termes d'humour, c'est pour ça, tu vois, j'ai besoin là de connaître, de comprendre ton niveau d'humour.
Faut que tu écoutes un tout petit peu. Il est sur le Game Pass. Fais l'intro. L'intro est vraiment, elle est surprenante. Elle est bien foutue. Mais c'est comment dire ? Mais je peux pas le faire, c'est pas possible, c'est ridicule, c'est genre... t'as ton flingue qui te parle, et ton flingue, il te dit, quand t'es en train de faire tes séquences de FPS, il dit « Oh, attention, vas-y, tue-le ! Oh non, fais gaffe ! Saute par là ! Oh merde, il y a du sang partout, qu'est-ce qui se passe ?» Et tu vois, c'est complètement débile quand tu le dis comme ça. Complètement débile. Sauf que c'est fait avec une voix tellement couillonne, et ce qu'il dit est tellement ridicule, que les 10 premières minutes... tu soupires et tu dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Et tu sais pas pourquoi, mais au bout de 20-30 minutes, tu dépasses le cercle de la consternation et tu te retrouves de l'autre côté à trouver ça drôle, mais tu veux pas l'avouer. Et tu comprends pas pourquoi. Tu sais, c'est hyper bizarre. Et tu te mets à sourire, genre à faire « Non, c'est pas drôle. »
J'allais dire que ça fait un peu le même effet que Rick and Morty. Je comprends que tu puisses avoir un sentiment de rejet en fait, au premier abord, et en fait une fois que tu as accepté le cadre d'humour qui met en place et que tu te prends au jeu, tu peux être aussi totalement hermétique.
Ah mais complètement.
Non, ce que j'allais dire, c'est ce que j'aime beaucoup dans Rick and Morty, c'est que je trouve que c'est une série qui est très intelligente. Elle pousse les concepts, ça va très vite, ils prennent pas forcément les gens par la main. Et j'avais l'impression que dans ce jeu-là, en voyant les trailers, on allait être un petit peu dans cette ambiance-là, de trucs complètement what the fuck, mais en fait, une fois que t'es dans le contexte et que t'as saisi où ils veulent aller, tout est très cohérent et ça t'emmène, enfin, c'est des délires, mais d'un niveau d'imagination rare. Et est-ce que tu as ressenti ça, du coup ?
Bah, j'ai pas joué assez, vraiment, pour aller jusque-là. Mais par contre, il y a clairement des trucs qui sont intelligemment pensés et intelligemment foutus. Je vais vous donner un exemple. À un moment, tu actives ton interface utilisateur avec ta combinaison, machin. Et l'interface utilisateur, t'as pas payé pour la version premium. Et donc, il y a des pubs. Et donc, sur ton écran... il y a des pubs qui sont elles-mêmes assez marrantes, qui s'affichent des pop-up, en fait. Et tu dois appuyer sur R1 pour les faire disparaître. Mais c'est tout le temps. C'est toutes les 4 secondes, tu as une nouvelle pub qui s'affiche. Et tu dois appuyer sur R1, c'est rien, hein, mais tu appuies sur R1 pour la faire disparaître. Et il faut que tu marches jusqu'au truc pour payer ta version premium pour que tu n'aies plus les pubs. Mais tu vois, c'est un truc qui est débile, mais qui est marrant et qui font. Et vraiment, c'est pas juste qu'ils disent « Oh, bah, et donc, ils t'affichent une petite pub en dessous de ton... » Tu vois, dans le bas de ton écran. T'as des pop-up qui te couvrent entièrement ton écran. Au bout de 4, tu vois plus rien, quoi. Et c'est ridicule, c'est débile. Mais c'est... Comment dire ? C'est intelligemment pensé, quoi. Et ça fonctionne. Et l'intro, vraiment, est drôle. On dit dans la chatroom, ah mais je savais pas pour R1, c'est peut-être L1, mon écran est couvert de ouf, mais voilà, c'est ça. C'est très simple en fait. Bref, c'est drôle, j'ai joué un tout petit peu, je veux continuer à jouer, j'avais lancé sur le Game Pass en cloud et ça marchait pas bien, donc j'ai pas pu continuer, mais j'étais surpris de vouloir continuer à jouer à ce jeu alors que je me disais a priori c'est pas vraiment mon truc quoi. Donc voilà, un jeu passable, encore un. Ne l'achetez pas, hein. Jouez-y si vous avez accès sur Game Pass, mais ça vaut pas le coup de le payer. J'ai aussi joué à Dorf Romantique. Est-ce que vous savez ce que c'est que Dorf Romantique?
Ah oui, où tu places des petites dalles pour créer des villes et des petits trucs là.
Exactement, c'est pas un jeu de... C'est super cosy. C'est super cosy et c'est même pas vraiment un jeu, c'est presque un truc de détente. Alors tu peux y jouer... si tu veux, sérieusement, en essayant de mettre les bons côtés des bonnes dalles pour construire une forêt et puis un chemin de fer et puis un machin. Et puis sinon, tu vas juste poser tes dalles. Et je me suis dit, c'est le jeu parfait pour moi. Je l'ai acheté sur Steam pendant les soldes. Je me suis dit, c'est le jeu parfait pour moi où ça va être la détente totale. Il n'y a pas de but dur. Tu peux faire ce que tu veux. Et ben en fait... Je me suis vraiment fait chier très, très vite. J'avais l'œil dessus depuis un an. Je me disais, ah, mais ça va être super détendu. Ça va être... C'est chiant. Je me suis emmerdé tout de suite, quoi.
Ouais, je peux comprendre. En fait, c'est assez déroutant parce que moi, j'avais joué, je l'ai toujours, hein, je l'avais acheté, mais au moment où il n'était pas encore release, il était toujours en bêta. Et c'est vrai que c'est assez déroutant. Alors je pense que le principe est toujours le même, mais en gros, t'as zéro indication, quoi. Donc déjà, tu dois comprendre toi-même comment fonctionne le jeu.
Si, il y a un tutoriel qui est bien foutu. Il y a des sortes de quêtes que tu peux accomplir ou pas. Donc c'est assez bien expliqué, j'ai trouvé.
Ok, c'est un peu changé. T'as joué combien d'heures là du coup pour le moment?
Ah mais rien, j'ai joué une heure et je me suis fait chier, donc j'ai arrêté.
Ouais. Là, c'était. Mais ouais, effectivement.
C'est un jeu méditatif, quoi. Faut être dans le trip.
C'est ça. Puis c'est un jeu où tu poses des tuiles, quoi. Tu vois, faut être préparé, quoi.
Non, mais je savais. Et puis c'est joli, tu vois, les graphismes sont beaux. Et puis tu poses des tuiles, tu dois réfléchir où tu vas la mettre, comment tu vas la tourner pour que ça se connecte ou pas, la tuile d'à côté, et que ça finisse ta quête d'avoir 200 arbres dans une forêt connectée ou pas, ou juste. Et en fait. Ils disent, tu peux suivre les objectifs très soft, ou alors juste poser tes tuiles et te détendre. Et c'est vrai qu'il y a une musique tranquille et tout, mais moi, ça n'a pas fonctionné. Poser des tuiles pour me détendre, ça m'a fait chier, quoi, tout de suite. Donc, alors que...
Ouais, je peux comprendre. Il y a un côté un peu mignon, satisfaisant, jeu de plateau, tu sais, forcément, les formes hexagonales qui rappellent, pour ceux qui savent, énormément de jeux de plateau. Après, moi je trouve que c'est un peu un jeu sans but, infini presque. Donc ouais, je peux comprendre ta réserve et peut-être presque ta déception.
Ouais. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais que ça allait être vraiment un truc pour moi dans une période de ma vie où je suis stressé tout le temps, j'ai le temps de rien faire, machin. Ça allait être justement méditatif. Et en fait, non. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Il y a plein de gens qui l'adorent ce jeu. Mais...
Il y a un autre jeu, alors je crois que c'est le même créateur, mais je n'y mettrai pas ma main à couper si jamais quelqu'un dans le chat arrive à vérifier, parce que je cherche l'info mais je la trouve pas, qui ressemble beaucoup à ça, qui te permet en fait de construire des villes, enfin des petites villes. C'est vraiment le même genre de visuel, et en fait c'est juste tu poses des morceaux de maisons les uns sur les autres, et à la fin ça te fait des maisons gigantesques ou des petites villes. C'est très très proche de ce concept là, c'est à dire que c'est juste un jeu contemplatif, c'est joli. Alors là, dans le jeu que je cite, il y a même aucun objectif, hein. C'est juste tu construis des choses, t'as pas d'histoire d'interconnexion entre les tuiles comme tu peux avoir dans Dorf Romantique. Et c'est vraiment dans cette même lignée, mais ouais, il y a un postulat de base. Ah oui, c'est peut-être Townscaper, merci notre Cassim. Alors je sais pas si c'est le même créateur, faudrait vérifier, mais voilà, c'est le genre de petit jeu tout mignon, mais sans vraiment de gros enjeux, quoi. Donc, ouais.
Bon, donc voilà, malheureusement, Dorf Romantique, c'était pas mon truc. Par contre, ce qui était mon truc, c'est un jeu dont j'ai pas pu encore vous parler, Street Fighter 6, J'ai joué à la bêta en décembre. Oui, pardon.
Petit jeu, Street Fighter 6.
Oui, un petit truc complètement...
artisanal.
Complètement artisanal. J'ai donc pu jouer à la bêta il y a un mois de ça, la deuxième bêta. Et je peux vous dire que je suis complètement obsédé par Street Fighter 6 depuis. J'ai regardé tellement de vidéos de gameplay, je suis allé voir JM Croft, enfin je passe ma vie sur la chaîne de Maximilian Dude. C'est le truc dont je me dis ça va être limite. On avait eu l'année dernière Elden Patrick, les aventures de Patrick dans Elden Ring. Là je me dis ça va être un moment Patrick quoi. Il va y avoir les aventures de Street Patrick en juin qui vont être on commence au plus bas niveau possible et on réussit difficilement au bout de 6 mois à arriver un niveau au-dessus. Mais non, j'ai alors, bon, j'aime Street Fighter, j'aime les jeux de combat, vous le savez. Peut-être les choses intéressantes à dire sur la bêta. Deux choses que je retiens sur qui le consensus est quand même hyper positif hein, sur ce qu'on a entendu de Street Fighter jusqu'ici. Les gens ont quand même l'air de dire ça sent très très bon, ça a l'air d'être un épisode qui réussit à combler les lacunes de la série depuis un ou deux épisodes et qui a l'air d'être très bon au lancement. Les deux choses que je retiens, d'une part visuellement, il est super bon. Non pas parce que les graphismes, bon, c'est particulier les graphismes de Street Fighter, mais on est dans le même style. Mais par contre, le dynamisme des combats est incroyable. C'est-à-dire que les coups spéciaux qui ont, il y a des trucs comme les drive impact, drive rush, drive guard, machin. Enfin, je sais plus comment il s'appelle le truc de garde, mais les poses avec les effets visuels, avec la peinture qui jette partout, ça te donne une impression de badasserie que tu n'as généralement pas dans les jeux Street Fighter. C'est-à-dire que les jeux 3D comme Tekken, Street Fighter il est en 3D mais c'est sur un plan en 2D. Les jeux comme Tekken par exemple, il y a une dynamique qui est facile à instaurer visuellement avec les mouvements de caméra. Sur les jeux en 2D, c'est moins facile, mais il y a des jeux qui réussissent à le faire, comme Dragon Ball FighterZ, par exemple, qui est un jeu animé, un jeu dans le style d'un dessin animé, où tu as des explosions de partout, c'est hyper dynamique et c'est badass. Sur un jeu, entre guillemets, plus simple, plus basique, comme Street Fighter, c'était pas évident à faire. Et bien là, ils ont vraiment réussi. Quand tu bloques un coup avec un drive impact et que tu rentres dans l'art en contre avec les explosions de peinture autour, tu sens la puissance de ton truc et ça donne un plaisir pour les débutants, pour les gens qui sont des casuals, qui sont pas des professionnels du jeu de combat. Ça donne un plaisir de jeu qui n'était pas aussi présent, je trouve, dans les jeux Street Fighter jusqu'ici. Et donc ça, c'est un aspect hyper important. Tu t'amuses et tu prends plaisir à ton truc, même si tu prends plaisir visuellement, tu as l'impression d'être un badass, même si tu prends pas plaisir en faisant tes combos de fou. Et la deuxième chose que je retiens, qui m'a beaucoup surpris et qui est liée à cette première, c'est que vous savez qu'il y a un mode moderne de contrôle où on n'a pas besoin de faire des quarts de cercle, demi-cercle, etc. Mais il suffit d'appuyer sur un bouton et une direction pour faire des coups spécifiques, que ce soit des coups de poing, coups de pied ou coups spéciaux ou même coups, les supers, les trucs comme ça. Je me disais, bon, c'est un truc qui est cool pour les débutants, pour commencer à jouer, mais n'importe quelle personne sérieuse va jouer en mode classique où il faut effectivement faire les quarts de tour, les demi-tours, etc. En fait, et moi je me disais, bah, je vais pas jouer avec le mode moderne. En fait, quand tu commences le jeu, t'es coincé en mode moderne et tu peux changer, mais c'est difficile de trouver le setting où tu peux le changer. Et évidemment, tous les gens qui sont des pros de la scène de jeux de combat, de la FGC, Fighting Game Community, ils vont dire « Oh, mais enfin, le mode moderne, qu'est-ce que tu racontes ?» Non, bien sûr, je suis en mode classique tout de suite. Je pense que Évidemment, pour les débutants, le mode moderne va être cool. Donc, le mode où on va pouvoir faire des coups spéciaux juste avec une direction et un bouton. Mais même pour des gens qui ont joué aux jeux de combat dans leur vie, qui n'ont pas joué depuis longtemps, je crois que ça peut avoir, pour un certain nombre de personnages, des avantages inattendus, comme le fait, par exemple, de ne pas avoir à... C'est-à-dire qu'on peut jouer au jeu sans avoir à passer 10 heures, 20 heures à développer la mémoire musculaire des mouvements pour faire les coups spéciaux. Tu te concentres, exactement comme la promesse de ce genre de mode, tu te concentres sur les décisions stratégiques dans ton jeu plutôt que l'exécution. Et ça peut avoir des désavantages s'il n'y a pas de profondeur dans le jeu, et ça on le verra au bout de plusieurs mois, plusieurs années de jeu. Mais par contre, le fait de pouvoir, moi je connais bien certains types de persos, mais il y en a plein, on le voit dans Street Fighter V, qui ont des mécaniques complètement différentes. Et quand ta vie, c'est Street Fighter, bah tu vas apprendre, tu connais déjà tous les autres persos, tu vas en apprendre un quand il arrive, un nouveau, et ben ça va être pas trop dur pour toi. Mais quand t'arrives et qu'il y a 16 persos et que tu sais en jouer un ou deux, ben je peux dire que t'as envie de jouer avec un perso qui a l'air cool, mais que t'as pas envie d'apprendre les réflexes mécaniques pendant 6 mois avant de pouvoir commencer à faire quelque chose avec ce perso. Donc le mode moderne te permet de faire un raccourci qui est évidemment pas aussi efficace que le mode classique, mais qui est pas le mode classique où tu vas vraiment pouvoir contrôler tout ce que tu fais, mais qui est pas ridicule. Et je crois qu'on pourrait être dans certains modes, évidemment, les pros vont dire, ah bah oui, moi, à mon niveau, machin, je peux pas. Ouais, mais au début, pour prendre en main le truc, ça risque d'être vraiment convaincant. Et du coup, tout ça mis ensemble avec un mode solo qui a l'air d'être très développé, avec une création de perso, etc. Je pourrais les parler de Street Fighter VI pendant 2 heures, hein, mais je vais me limiter à ces 2 impressions. Dans l'ensemble, ça peut conquérir un public beaucoup plus casual, ce que n'a jamais réussi à faire Capcom avec les Street, depuis très longtemps. Et là, je crois qu'ils ont une vraie carte à jouer pour convaincre la communauté des jeux de combat et une communauté adjacente qui aimerait peut-être découvrir ces jeux-là, mais qui a jamais réussi parce qu'il y avait des obstacles sur leur chemin, y compris des gens qui en étaient fans dans leur jeunesse et qui ont plus joué depuis 5, 10, 15 ans ou qui jouent 20 minutes et puis qui se rendent compte que c'est pas pour eux. Donc, vraiment, il y a des trucs dans Street 6 qui vont au-delà de juste « c'est un nouveau Street ». Alors oui, c'est un nouveau Street, mais c'est un nouveau Street qui fait tellement de choses bien que je me demande si ça va pas être le retour en grâce de cette licence. Capcom a vraiment bien joué leur coup parce que ils ont fait, en fait, Monster Hunter leur a permis de se reconsacrer à plein de choses et au lieu de faire juste du Monster Hunter tout le temps, ils ont redéveloppé Resident Evil avec un succès phénoménal. Ils ont commencé à repenser à d'autres jeux. Et là, ils font en fait le même traitement sur Street. Ils remettent Street. C'est pas juste qu'ils ont sorti un 6 pour sortir un 6. C'est qu'ils ont réfléchi, OK, comment est-ce qu'on peut en faire l'une de nos licences essentielles comme Monster Hunter, comme Resident Evil, comme d'autres trucs qu'on fait. C'est hyper, hyper convaincant. Je suis désolé, j'ai parlé genre 20 minutes sur ça, mais je suis vraiment séduit par ce jeu et j'ai hyper hâte qu'il arrive en juin, quoi. J'espère qu'il y aura une bêta avant, une nouvelle bêta avant, que je puisse y rejouer plus. J'ai tellement envie d'y jouer. Je vous dis, je pourrais vous en parler encore plus longtemps. Est-ce que j'ai convaincu quelqu'un?
Ah! Ma carrière de jeu de combat s'est arrêtée à Tekken 3 et Soul Calibur 2. Donc ça s'est arrêté là. Je pense que je vais prendre du plaisir à regarder du Street 6. Par contre, c'est clairement pas le genre de jeu dans lequel je vais investir du temps parce que je suis pas bon à ce genre de jeu et je suis vite frustré par le
moderne.
Ah oui, je sais, mais mettre du temps pour me faire laver en ligne, je préfère refaire Dishonored 2 pour la 11e fois.
D'accord.
C'est ça. Mais je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder les compétitions et les tournois là-dessus. Comme pour Dragon Ball, finalement.
Tu suivras la série Street Patrick chaque
Absolument.
Semaine pour voir comment le drama. Oh non, je n'y arrive pas, mon Dieu! Et j'ai réussi à gagner un combat. J'arrive enfin en bronze! Incroyable!
J'envoie un message à Ken Bogard tout de suite pour qu'il puisse commenter tes prix.
ça va être spectaculaire. Est-ce qu'à toi qui est...
Alors moi, les jeux de combat, tu sais, à part Smash Bros.
J'ai pas fait... Rappelez-moi de vous inviter.
Bon, eh, dis donc, t'as jamais joué à Pokémon, hein, et j'ai rien dit. Hein. Non, mais ce n'est pas que. C'est juste que c'est pas pour moi. Enfin, moi, les jeux 1v1, ça me met dans un état de pression et de stress pas possible. Mmh. En plus, je suis une adversaire insupportable quand c'est comme ça parce que je fais preuve d'une mauvaise foi absolument sans limite. Mais oui, mais enfin, du coup, moi, je fais pas mal de jeux de plateau. Donc, en vrai, les jeux de plateau, c'est souvent du 1v1v1. Et moi, j'aime énormément mettre la pression à mes adversaires avec beaucoup de mauvaise foi et d'humour douteux. Donc, non, un truc comme ça, je supporterai pas la défaite. Je casserai tout autour de moi. Et en plus, j'insulterai la personne en face. Donc, autant que...
Mais ça fait partie du truc.
Mais ouais, mais... Non, mais je suis d'accord avec Mallory. Tu vois, moi, je préfère aller faire du Dorf romantique, tiens, tu vois.
Je vois.
De toute façon, je vais me faire rouler dessus. Donc voilà, tu vois.
Ça, c'est encore plus vicelard que ça, si... parce que je suis mauvais gagnant.
Ah, mais bien mauvais sûr, gagnant. Ça va dans le lot. Mais bien sûr.
Oui. mais le truc, c'est que... Alors, on n'a pas encore beaucoup de détails sur le mode solo, mais il risque d'y avoir un mode solo qui sera conséquent. Donc peut-être que ça vous... Ça vous... Bon, on verra. Je continuerai à faire mon lobbying et on verra quand il arrive.
Allez, si tu joues à Pokémon, je joue à Street.
Ah, alors attends. Là, il y a un truc à faire parce que on en reparle, Malo. On en reparle.
Peut-être que la lecture des livres, on lui donne envie.
Ah, peut-être.
Mais c'est le but. Le but, c'est que, en fait, comme je vous le dis souvent, mon fils est très peureux. Et du coup, le but des livres, c'est de le familiariser avec l'univers, avec les Pokémon, tout ça, en livre, pour qu'il soit, tu vois, c'est un petit peu moins impressionnant, et à terme, lui faire découvrir les jeux. Donc, peut-être. Et malheureusement, les commentaires, il n'y en aura pas en français. Donc, pas de Ken Bogard qui commentera. D'après ce qu'on a su, hein, il n'y aura pas de commentaires. Et évidemment, le lobbying pour avoir Ken Bogard en commentateur du jeu. Parce qu'il y a aussi, c'est un peu gimmick, hein, il y a aussi la possibilité de faire commenter les jeux dans le jeu par des commentateurs connus en anglais ou en japonais. Il n'y en a pas en français.
Oui, ça a bien marché pour Mario Strikers.
Ah oui?
De faire intervenir. Non, pas du tout. C'était. Mais je sais pas, le jeu a complètement guidé, mais si tu te souviens, il y a eu une publicité. Ah oui, mais tu l'as peut-être pas eu en Finlande, mais il y a eu une publicité en France pour Mario Strikers où c'était les commentateurs sportifs français qui faisaient la publicité.
Ah, d'accord.
Et du coup, ça rendait hyper bien. Et le jeu, c'est pas bien vendu du tout, mais le jeu n'était pas très bien de toute façon.
Ça, c'est effectivement un problème. Street Fighter 6, c'est très bien. Je suis en train de voir le trailer, et quand ils font les Drive Impact, mais bon sang, tu fais... Et tu envoies le truc, et t'envoies ta peinture partout. Mais qu'est-ce que c'est cool. Franchement, qu'est-ce que c'est cool. On fera un truc en juin. On va faire un truc pour...
Qui t'a bien envoyé de la peinture Ah là là, il veut nous convertir. Mais si tu veux envoyer de la peinture, tu peux jouer à Splatoon aussi. Hein.
C'est vrai.
On joue beaucoup à Splatoon. C'est peut-être pour ça que ça me plaît tellement. Je joue beaucoup à Splatoon avec mon fils. Mais oui, on verra. Il y aura un deal à faire avec Pokémon et Street et Malo et SK. On verra. Dernière chose. Allez, on va avancer. Dernière chose, j'ai regardé Cyberpunk Edge Runners. Très déçu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Très déçu. T'as beaucoup aimé Edge Runners?
Ah, j'ai trouvé ça absolument génial.
Ouais, c'est assez chouette quand même.
Bah, en fait, j'ai beaucoup aimé, genre, jusqu'à deux épisodes de la fin. Et je trouve j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé jusqu'à deux épisodes de la fin. Et je trouve qu'à deux épisodes, il perd complètement son propos et il sait pas finir. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Ah, bah, on va faire des trucs de japonais ». Ouais, ok. Il y a des trucs qui sortent de nulle part à la fin, et c'est là où ils avaient eu beaucoup de réserves au début. Il y avait des choix intelligents et intéressants. À la fin, c'est juste oh bon bah je vais pas spoiler, hein, donc je vais pas dire, mais on va faire comme dans tous les animés. Ok, très bien. Allez, vendu. Hop, c'est écrit par des japonais, donc c'est pas surprenant. Mais et animé, enfin c'est vraiment un animé quoi. D'ailleurs, c'est pas vrai, je dis ça, c'est pas vrai. C'est écrit par un des membres de CD Projekt, c'est un polonais, j'imagine, enfin, en tout cas son nom a l'air polonais, et c'est l'histoire est par le CD Projekt, ensuite ils ont développé ça, mais c'est tellement tombé à la fin, et ça a été tellement dans des directions qui sont du what the fuck par rapport au début, que ça m'a vraiment douché, quoi. Alors qu'au début, j'ai trouvé ça pas mal. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais on est plusieurs à avoir cet avis. Malo, clairement,
je blasphème. J'ai trouvé ça très bien. Non, mais moi, je vais m'en aller. Tu joues pas Pokémon, t'aimes pas...
Non, bon, dans la chatroom, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Merci, Fab.
Je peux comprendre le côté, effectivement, où le Japon récupère le truc. Après, ça m'a pas du tout choqué parce que ça colle finalement tellement avec ce qu'est Cyberpunk dans son ensemble, c'est-à-dire que ce soit le jeu vidéo, le jeu de rôle, qu'il y a un moment où ça part complètement, ça peut complètement partir en sucette. Il n'y a rien de choquant. C'est peut-être plus par rapport à la mise en scène qui illustre ça que ça donne un côté très japonais what the fuck. Et je trouve que la conclusion est toute kiki. Mais kiki triste.
Ouais, mais non, enfin, on spoil pas.
Non.
Mais tu vois, sur ce que je veux dire par rapport au truc, les enjeux narratifs et d'action majeurs de la fin... on est d'accord. Enfin, bon, bref, je vais pas spoiler, donc je vais pas. Mais bon, bref, moi ça m'a.
Tout ça pour ça, quoi. C'est un peu ton.
Non, c'est pas tout ça pour ça. C'est qu'ils ont passé les deux tiers de la série à construire des trucs, et tu dis ah ouais, ça va quelque part. Et en fait, non. Ils font complètement autre chose à la fin, et ça me dérange pas le fait que tu changes de perspective, mais c'est là où ça va après. Bon, bref, on peut pas en parler sans spoiler, donc je vais pas le faire. Mais
ouais, c'est difficile d'aborder le dénouement des intrigues sans spoiler.
Ouais, parce que le dénouement, ok, mais la manière dont il arrive et la grosse cette piste d'action, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est bref, bon, peu importe.
Ouais, moi j'ai l'impression que c'est une dérive assez classique des animés, donc ça m'a pas que et c'est d'ailleurs pour ça que je regarde très peu. Et c'est pour ça que ça m'a pas choqué, mais sinon en termes de produits dérivés du jeu, je trouve quand même que ça respecte vraiment très bien l'univers et que même ça rajoute autre chose parce que visuellement, bien que la DA du jeu soit respectée, on va dire que l'aspect animé justement fait ressortir encore autre chose de ce monde-là et je trouvais que c'était une belle adaptation comme on en voit assez peu au final.
Je suis d'accord. Je suis un petit peu méchant parce que j'ai pas aimé la fin, mais j'ai quand même regardé avec plaisir à la suite. Je l'ai bingé sur il y a quoi, 10 épisodes. Les 7 ou 8, je les ai trouvés vraiment assez bien. Pas incroyable, mais vraiment assez bien. Donc, il y avait. J'étais pas client à la base parce que je me disais, ah, ça va être edgy pour rien, machin. En fait, non, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Donc peut-être que là, je suis un petit peu trop sévère parce que la fin m'a pas plu, mais dans l'ensemble, elle est meilleure que ce que je laisse entendre. Donc voilà pour les trucs auxquels on a joué ou qu'on a regardé. On va finir avec quelques news rapides. D'abord, une félicitation à Sumimasen Turbo, qui est un podcast... que vous connaissez, donc vous connaissez peut-être les racines. C'est animé par les anciens animateurs d'un podcast qui explore la culture japonaise sur un grand site de en gros c'est Gaijin Dash, voilà. Et ils ont réussi mais ça suffit les pubs sur YouTube, bon sang. Ils ont réussi un Kickstarter qui est aujourd'hui à quoi, 11 000 euros par mois. Un gros succès qui va leur permettre, c'est vraiment une bonne nouvelle dans l'industrie, enfin dans les médias vidéoludiques, dont on avait besoin, et ça va leur permettre de pérenniser d'une part l'émission Sumimasen Turbo et d'autre part leur activité en tant que maintenant créateurs indépendants. Alors Daniel et Greg ont déjà du travail et des métiers. Pouillot est maintenant nouvellement journaliste indépendant et j'espère que ça va leur permettre de pérenniser leur activité en plus de l'émission elle-même. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, ça continue à monter, ils ont des paliers sympathiques. Donc bravo, je suis content que la communauté était derrière eux et je voulais le mentionner dans l'émission aussi parce que si vous n'avez pas entendu parler, Sumimasen Turbo, ils sont dispo sur toutes les apps de podcast, ils sont sur YouTube et ils ont un Patreon. Donc, si vous avez quelques euros à leur consacrer, je pense que ça serait une idée à explorer. Ensuite, les news rapides, comme je disais, il y a HTC qui a annoncé un nouveau casque de réalité virtuelle augmentée, mixte, machin. Bon, ok, très bien. Il a l'air très bien, mais ça coûte un peu cher. C'est 1 000 $, 1 100 $. Des nouveaux processeurs Nvidia. Une upgrade, tiens, ça c'est intéressant. Une upgrade de GeForce Now qui passe en 240 frames par seconde, si vous avez le image par seconde, si vous avez le moniteur qui va avec. Vous savez, c'est le service de streaming. Et ils passent tout leur service sur des GPU de classe 4080. Donc c'est vraiment une qualité super importante pour le GeForce Now. Maintenant, s'ils pouvaient faire en sorte qu'on n'a pas besoin de se reloguer et refaire les paramètres sur chaque jeu à chaque fois qu'on se connecte au service, je vous serais très heureux de l'utiliser. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Quelques news en plus. Last of Us multijoueur devrait être révélé en 2023, selon les rumeurs. Donc, on peut espérer voir le nouveau jeu de Naughty Dog cette année. En tout cas, une annonce. On a aussi... est-ce que vous connaissez Goose... Comment il s'appelle ? Merde.
Ah, Goose Duck.
Goose Goose Duck, c'est ça. C'est une sorte de Among Us qui a été popularisé par BTS, ouais, le groupe coréen. Ils en ont parlé et il a explosé sur Steam. Donc, c'est pour ça que vous en entendez parler. C'est BTS qui en a parlé. Et entre-temps, Steam a encore battu des records. Ils étaient 10 millions de joueurs en jeu en même temps et 33 millions de joueurs connectés. C'était comme chaque année, en début janvier, pour une raison que j'ignore. Ils battent les records de l'année précédente. 33 millions de joueurs connectés en même temps et 10 millions en jeu. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des choses à mentionner sur ces sujets. Le PS Plus Extra va avoir Back 4 Blood, Dragon Ball FighterZ et Devil May Cry 5. Donc ça, c'est assez cool. Et si vous êtes abonné à Netflix, ben, y a Shredder's Revenge, qui était l'un des jeux qui a beaucoup plu l'année dernière, qui est disponible sur iOS et Android. Donc Shredder's Revenge, vous pouvez y jouer gratuitement si vous êtes abonné à Netflix. Quoi d'autre ? Meta va arrêter d'updater le MetaQuest 1. Il est sorti en 2019, le truc. Il est déjà plus mis à jour à partir de 2023. Je suis furieux. C'est un peu...
C'est la douche froide.
C'est un peu la douche froide, ouais. Enfin, qu'ils le mettent... C'est vraiment genre, il n'y aura plus de mise à jour. Et le Meta, il est sorti il y a 4 ans. Ils veulent nous vendre leur métavers. Je comprends que le matériel évolue, surtout pour un truc comme ça, qui est un petit peu un smartphone dans un... dans un casque de VR, mais putain, les gars, quoi. Bref.
Ça leur apprendra à faire du métavers, tiens.
Exactement. est-ce que vous avez vu le trailer du film Gran Turismo ?
Oui.
Pas du tout.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Malo, toi qui l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je vais pas le passer de peur que ça me strike la vidéo, mais...
Eh bien, je pense que c'était la seule bonne manière de faire un film Gran Turismo. C'est-à-dire de s'intéresser à l'histoire de la GT Academy, avec cette histoire de pilote qui commence par le simulateur et qui devient un vrai pilote. C'est le seul moyen de pas tomber dans un ersatz d'un Fast and Furious qui serait dans le Grand Tourisme, c'est-à-dire d'inventer une histoire et de dire « bon, voilà, en fait, on écrit Gran Turismo et en fait, c'est juste un film sur des courses de voitures ». Là, c'est l'histoire de Gran Turismo, le jeu et l'histoire d'une personne à partir de laquelle on peut écrire une histoire qui peut être intéressante. Donc, je trouve que c'est un calcul qui est intelligent à voir si le film est bon. Mais le scénario et le casting est solide. Hein. Il y a du Orlando Bloom, il y a du David Harbour, il y a des noms intéressants. Et c'est basé sur l'histoire vraie de ce pilote qui est devenu un pilote Nissan, je crois, après
et
coup.
Et en plus de ça... J'avoue que cinématographiquement parlant, j'ai été très impressionné par les scènes qu'on a vues. Ils ont vraiment, enfin, ils filment les courses de voitures comme j'ai jamais vu les courses de voitures filmées, quoi. Il doit y avoir des plans au drone, des plans à la grue qui fait des demi-tours, qui passe entre les bagnoles. Enfin, vraiment, c'est hyper, hyper impressionnant. C'est le genre de film. Alors, Gran Turismo, jamais j'aurais pensé que ça serait intéressant au ciné. Mais là, pour le coup, je me dis, mais il faut aller le voir au ciné, ce film, quoi. C'est grand, grand spectacle. Enfin, ça a l'air, en tout cas, avec le petit sneak peek qu'ils nous ont montré.
Oui, donc, puis on rentre dans une dynamique, puisqu'il y aura un film sur la Formule 1 bientôt. Mmh. Il y a du Brad Pitt dedans, je crois. Je sais plus qui réalise, mais il y a un gros film sur la Formule 1 qui arrive et qui part un peu dans cette idée-là aussi de raconter un grand spectacle avec sur un jeu,
donc ça m'intéresse moins forcément.
Moi, rien que pour Orlando Bloom, je vais y aller, je pense.
Ils ont eu l'argument pour convaincre tout le monde.
Alors que ma chérie, ce serait plus David Darbour parce que c'est le daddy issues classique de
Stranger
Things.
Ouais,
j'habite dans le nord de la France, hein, je voudrais pas balancer.
Non, mais il y a un truc sur cet acteur de Stranger Things, et c'est vrai qu'il y a une tronche qui est incroyable.
Ouais.
C'est le mal, tu vois. Il pourrait faire une pub pour le parfum.
Oui.
Bah tu vois, ma chérie,
c'est un certain type. Voilà, c'est un certain type. C'est quand même le mal qui est comme dans la série, comme dans Stranger Things, il est dans la forêt avec sa hache pour couper du bois, tu vois. Mais
et oui. C'est le bûcheron canadien.
C'est ça.
ça fonctionne très bien. Et il a une tronche où on le voit justement dans le trailer du film. Où t'as l'impression, il dégage quelque chose du gars qui est là depuis longtemps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand on le voit, on se dit, il a la tête du gars qui est dans le paddock depuis 30 ans. Tu vois.
Et écoute, on verra ce que ça donne dans Gran Turismo.
Voilà, il a du chien.
Je suis d'accord. Il a une gueule, ouais. Et pour les gens qui ne sont pas convaincus par Gran Turismo, il y a visiblement un film Death Stranding qui est en production. Pas visiblement, ça a été annoncé. Et bien sûr, Kojima n'a pas pu juste dire on fait un film. Il dit ça sera le premier film Strand Type de l'histoire. Alors un Strand Type film, je ne sais pas ce que ça sera. On verra quand il sortira.
Il ne reste plus qu'à écrire un scénario, quoi.
Bah écoute, avec Kojima, si tu lui donnes 4 heures de film, il pourra en faire la moitié, c'est bien.
Oui, après c'est Kojima, quoi. C'est-à-dire que j'ai adoré le jeu, hein. J'ai adoré Death Stranding, j'aime beaucoup les Metal Gear, mais c'est écrit bon.
Ah, c'est Kojima.
Voilà. Voilà, c'est écrit.
moi, j'avoue que ce qui me choque surtout, c'est le manque de modestie grandissant du personnage qui m'irrite de plus en plus. Enfin, tu vois, là, je regardais le Strand Type Movie, enfin, waouh.
C'est du Kojima. Moi, j'ai fait la direction inverse. Il m'énervait avant et maintenant, je le trouve quirky, bizarre, mais pas si immodeste que ça, en fait.
Il y a un côté Peter Molineux dans les annonces qui m'inquiète un peu.
Oui, mais alors lui, dans les jeux, il fait ce
qu'il veut par méfiance. Oui, c'est vrai qu'il fait ce qu'il dit, lui, au moins. Bon.
Tu vois, on peut vraiment pas lui reprocher. Et Dieu sait qu'à son départ de Konami, moi, j'étais j'hésitais à lui faire confiance. Et je suis d'ailleurs pas du tout un Koji fan. Au contraire. Mais il a été hyper sérieux. Il a fait son jeu. Et c'est pas juste qu'il a fait un jeu, il a fait un triple A en monde ouvert. Voilà. Il a fait un jeu bizarre qui lui correspond, et il l'a sorti en quelques années seulement. Non, moi, je suis.
Oui, il fait partie de ces gens qui font avancer le jeu avec des propositions qui sont ultra marquantes et qui correspondent pas à tout le monde. Enfin, il y a des gens qui s'ennuient à Death Stranding. Moi, j'ai mis les mains dessus en me disant, si c'est pour jouer.
Ah, ça a disparu.
Il y a un gameplay entier.
Par le stand.
Ah, pardon.
Non, t'es revenu, c'est bon.
Ah, je suis revenu. Il y a un gameplay qui est entièrement construit autour du fait d'avancer et de faire des choses. Et je me suis dit, il a gamifié Amazon, quoi.
Alors maintenant, on va voir ce que ça peut donner en film. C'est clairement complètement possible à adapter en film. Enfin, il n'y a aucun souci. Mais c'est marrant, on en parle. Il n'aurait pas dit « ça sera le first Strand Type movie ». On aurait parlé 2 secondes. On aurait dit, il y a un film Death Stranding, ok, très bien. Il dit ça, et du coup, on en parle 10 minutes. C'est du Kojima, quoi. Très bien.
Je pense que malheureusement, il va se heurter à son fantasme du cinéma. Je pense qu'il va se, il va se heurter à la réalité du cinéma en se disant « j'ai fait des jeux cinéma ». Et il va se heurter à la réalité de ce que c'est de faire un film. Parce que ça, un Death Stranding au cinéma, tu ressors, tu dis « j'ai perdu 12 balles ».
Non mais attention, on ne sait pas qui va l'écrire, on ne sait pas qui va le réaliser. Il est producteur, bien sûr, mais ce n'est pas lui qui va faire le film. Hein. Donc,
non, bah, heureusement.
Est-ce que ce sera Guillermo del Toro?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura comment il s'appelle, Daryl, comment il s'appelle,
Norman Reedus.
Ça serait tellement dramatique si Reedus reprenait pas son rôle.
Ouais, puis il est assez doux. Enfin bref. Mais là, tu vois, en Guillermo del Toro, en bûcheron canadien, là, on y est bien quand même, je trouve.
C'est
enfin,
parfait.
Un autre délire.
Ouais, tu nous as fait un remix particulier. Mais pourquoi pas, hein, c'est Kojima. Donc, bah écoutez, je crois que ça va être tout pour ce long épisode que vous m'avez fait le plaisir de partager. Avant de se quitter, bah comme toujours, je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Honneur à Mallory Delacourt. Donc, tu nous disais, tu fais dans des magazines papier. Est-ce que tu es sur Internet, des comptes Twitter, tout ça?
Oui, j'ai toujours mon compte Twitter, @malodelic. Ça marche partout, même sur Mastodon. Ça fonctionne aussi. Et puis sinon, ouais, sur JV, Actu Gaming, Clubic et les magazines qu'on a mentionnés tout à l'heure.
Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Malo.
Grand plaisir.
Iska, où es-tu? Que fais-tu?
Alors, actuellement, je suis avec toi, Patrick. Désolée, je suis sur de la vanne pourrie depuis le début de l'émission. Je sais pas ce qui m'arrive. Je pense que c'est le début d'année.
C'est l'ambiance de l'émission. C'est très bien.
Donc, tous les deuxièmes jeudis du mois ici. Sinon, bah, régulièrement, on en parlait tout à l'heure chez Super Gamerside, sur Twitter, @escarina_, et puis aussi sur Kiss My Geek. Je salue d'ailleurs mon ami Jache qui nous écoutait tout à l'heure et qui me trollait vertement dans le chat.
Pourquoi le monde est petit.
Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Vous connaissez les émissions que je fais, le rendez-vous jeu, le rendez-vous tech. Il y a même un positron qui arrive. Ça faisait des mois que j'en avais pas fait, mais il y a deux recommandations vraiment super excellentes que je vous fais dans le prochain positron. Et bien sûr, on va bientôt revenir avec Super Laser Punch pour parler de trucs Marvel. Il y a Ant-Man and the Wasp Quantum Mania qui arrive dans quelques semaines à peine. Mais sinon, vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur Twitter, Note Patrick, sur Twitch, Note Patrick, sur, il y a même la VOD sur YouTube, pour ceux qui ne le savaient pas, Note Patrick Podcasts, le lien est dans les notes de l'émission, comme le lien vers le Discord, qui est un endroit super cool où on s'amuse tous ensemble. Vous pouvez faire tout ça et évidemment soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Si vous voulez soutenir Soumis Ma Scène Turbo, vous pouvez vous créer un compte et peut-être un jour soutenir le rendez-vous jeu également. Tout le monde est sur Patreon, hein, d'ailleurs. La plupart des créateurs français, je dis tout le monde, mais la plupart des créateurs, même français aujourd'hui, sont sur Patreon. On peut payer en euros. On a le site en français, donc tout est facilement accessible. Donc n'hésitez pas, patreon.com/rdvjeux. Le lien est également dans les notes de l'émission. Peut-être qu'on va faire, je vais faire une refonte du Patreon avec un truc pour Street Patrick en juin. Je ne sais pas ce que ça sera. Genre, il faut que je stream mon parcours ou que je ne sais pas si je pourrais avec les enfants, mais que je stream mes défaites consécutives, mes arrachages de cheveux, mes pleurs, mes larmes et mes victoires. Street Patrick, ça pourrait être une suite digne de Elden Patrick que vous n'avez eu qu'en narration décalée. Mais là, ça pourrait être vécu en vrai. Je suis sûr que ça vaudrait le coup. Bref, patreon.com/rdvjeux. Oui,
ok, mais alors après, tu fais un Pokébéja.
Ah ah! Un Pokébéja en plus, écoute, on est presque en train d'inventer le streaming de jeux vidéo sur Twitch, là. C'est dans l'innovation, incroyable. Non, mais alors il faut que ça soit. Alors c'est pas Pokébéja, c'est Poképatrick. Mais possible. On verra. On en rediscutera. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais des grosses bises à tous et à toutes. Merci Eska, merci Malo, merci aux Patriotes, merci aux auditeurs et aux auditrices. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bisous.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.